18h, 20h.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour deux heures d'informations et d'explications aussi. Dans un instant, le journal avec à la une ce soir un nouveau maire agressé dans la Loire pendant les festivités du 15 août. 18h15, on va revenir sur la mort, le suicide de Jeffrey Epstein, le financier américain, alors qu'il était accusé d'agression sexuelle sur mineurs. On reviendra sur les zones d'ombre de cette affaire avec la journaliste franco-américaine Anne Toulouse. 18h30, la visite controversée de Vladimir Poutine demain à Brégançon. Que vont se dire Emmanuel Macron et le chef du Kremlin à 5 jours du sommet du G7 à Biarritz? Je poserai la question à Florent Parmentier, il est expert en géopolitique européenne. 18h40, l'interview média, invité ce soir, Eric Fotorino. C'est l'ancien patron du Monde qui a créé depuis le 1 America et Zadig, une presse indépendante avec du contenu et ça marche, histoire d'un succès. 18h50, un peu de détente avec notre balade gourmande, avec Marion Sauveur. On va déguster ce soir la Mirabelle de Lorraine. Et puis à 19h30, notre débat d'actu, l'enseignante Barbara Lefebvre face à Pierre Jacquemin de la revue Regard. Au sommaire ce soir, la rentrée d'Emmanuel Macron, les dossiers chauds qui attendent l'exécutif, PMA, réforme des lycées et retraite notamment. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Thierry.
Programme bien chargé ce soir. Hein.
Et vous pouvez aussi réagir, n'hésitez pas, avec vos réactions sur Twitter, avec le hashtag Europe 1. C'est Europe 1. Mon début de soirée, il est 18h. 18h-20h, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Et toute l'information à 18h avec Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et cette nouvelle illustration, donc vous le disiez, de la violence à laquelle les élus se trouvent confrontés. Le maire de la commune de Saint-Alban-les-Eaux dans la Loire, violemment frappé par un automobiliste en pleine fête du 15 août. Il témoigne dans ce journal. Une centaine d'habitants de Levallois-Perret ne peuvent pas regagner leur logement ce soir après l'incendie du marché couvert la nuit dernière. Les habitations surplombant les commerces ont été évacuées lors du sinistre. En Italie, alors que les sauveteurs ont reçu des renforts, toujours aucune trace de Simon Gauthier disparu lors d'une randonnée il y a 9 jours. Nous ferons le point là également dans ce journal. Et puis le football, suite de la deuxième journée de Ligue 1, depuis 17h, Reims reçoit Strasbourg au Stade de l'Aune. On en est où Damien Ardoin?
Eh bien c'est la pause au Stade Auguste de l'Aune. Pas de but pour le moment, 0-0 entre Reims et Strasbourg.
Merci Damien, on vous retrouve évidemment dans le journal des sports de Marie Guida à la fin de cette édition. Plus tôt dans l'après-midi, Saint-Etienne a concédé le match nul 1 partout face à Brest. Et puis ce soir, le Paris Saint-Germain, toujours sans Neymar, reçoit ou plutôt se déplace à Rennes.
Europe 1.
Et à la une donc ce soir, une nouvelle affaire de maire violemment agressé par l'un de ses administrés.
Oui, je vous le disais, ça s'est passé dans une petite commune à Saint-Alban-les-Eaux, dans le département de la Loire. Jean-Pierre Devedeux a été frappé lors de la fête du 15 août, alors qu'il tentait de calmer un automobiliste en colère à cause tout simplement d'une banale interdiction de circuler. Jihan Bergaoui a recueilli son témoignage.
On m'appelle en me disant c'est le maire, venez vite, il y a un problème. Donc j'y vais, je me suis approché de lui, je le connaissais, hein, j'avais déjà eu maille à partie avec lui. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites là, mais calmez-vous. Il m'insulte et je prends un coup de poing. Donc je tombe par terre, les gens s'interposent, je me relève, lui il continue à menacer les gens. Il remonte dans sa voiture et la gendarmerie intervient. Physiquement, ça va bien. Psychologiquement, pas très bien. Je revois les images la nuit, je dors mal. Et puis je me dis, mais si un Saint-Albanais avait été blessé ou autre chose, tu aurais ça sur la conscience en me disant, bah, t'as peut-être pas fait assez, quoi. Voilà, moi je suis qu'un petit maire, hein, un petit village. On n'est pas préparé à ce genre de choses et je vois une dérive dans cette société où on agresse un professeur pour un oui ou pour un non, une infirmière aux urgences, les forces de l'ordre n'en parleront pas. Tout ce qui représente aujourd'hui un petit bout d'autorité ou qui représente un petit morceau de République, eh ben, on ne supporte plus, quoi. Et je trouve ça inquiétant.
Mais justement, illustration de ces propos recueillis par Jihan Bergaoui, des pompiers. Des pompiers ont également été agressés hier soir dans les Yvelines alors qu'ils venaient en aide à un adolescent suicidaire. Le jeune homme les a violemment frappés au moment de leur intervention, donc coup de poing et coup de genou au visage. L'adolescent a finalement été placé en garde à vue.
Une centaine d'habitants de Levallois-Perret, près de Paris, devront être relogés après l'incendie qui a ravagé cette nuit le marché couvert de la ville.
Un feu d'une rare violence, hein, selon les témoins. Un feu que les pompiers ont mis 3 heures à maîtriser, mais qui, heureusement, n'a pas fait de victimes. Le problème, c'est que les habitants qui occupent les logements surplombant le marché, eh bien, ces habitants ne sont pas autorisés à réintégrer leurs appartements. Vous êtes sur place, Sophie Echen.
Oui, exactement. Et ici, l'odeur est encore âcre ce soir. Pendant tout l'après-midi, les agents de la protection civile ont accompagné les habitants sinistrés afin qu'ils puissent récupérer quelques affaires chez eux. Le strict minimum, mais pour combien de temps, ça, personne ne le sait. Mohamed vit ici depuis 40 ans.
Au départ, ils ont dit peut-être que vous allez rejoindre vos appartements vers 2h, 2h30 d'après-midi, même midi. Et après, on a eu la réponse comme quoi qu'on ne va pas dormir ce soir-là. Demain, on ne sera pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire ?
Ce soir, ils seront une centaine à être relogés dans un hôtel situé à moins d'un kilomètre d'ici. Gérald, lui, n'était pas encore chez lui hier soir pendant l'incendie. Il a pu venir récupérer quelques affaires aujourd'hui.
Voilà, j'ai 4 enfants, donc il a fallu récupérer les affaires pour les petits, les grands, moi, ma femme. Et en plus, on partait en vacances dans 2 jours. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas si on va retourner chez nous aujourd'hui, demain. J'ai cru comprendre qu'a priori, les expertises pouvaient durer entre plusieurs jours à plusieurs semaines. On en saura a priori peut-être plus demain. Pour l'instant, on est vraiment dans le flou total, quoi.
Pas question donc de revenir sur les lieux dans l'immédiat. En tout cas, tous les habitants évacués ont dû remettre la clé de leur domicile aux pompiers. Il va maintenant falloir attendre les expertises des architectes avant de savoir quand un éventuel retour sera possible.
Merci Sophie Echen à Levallois-Perret pour Europe 1. Un phénomène qui inquiète le monde médical, les pénuries de plus en plus fréquentes de médicaments, notamment dans le système hospitalier. Un collectif de médecins signe aujourd'hui une tribune, relayée par nos confrères du JDD, pour demander une meilleure gestion des stocks de médicaments et aussi une relocalisation en Europe de la production de ces médicaments. Nous en parlerons dans le journal de 19h.
Exactement, à 19h15 également, avec mon invité le professeur Grimaldi, l'un des signataires de cette tribune. En Italie, Simon Gauthier reste introuvable malgré des recherches intensives.
Ouais, les sauveteurs qui ont reçu des renforts tentent toujours de localiser précisément l'endroit où le jeune randonneur français est tombé, une zone de rochers et de falaises à 200 km au sud de Naples. On a un peu l'impression, Victor Delande, que ces sauveteurs sont un peu perdus. Est-ce que je me trompe ?
Non, Lionel, nous sommes 10 jours après les derniers signes de vie donnés par Simon Gauthier aux secours italiens. Si la zone de recherche a été resserrée grâce notamment au témoignage de 3 jeunes garçons qui ont aperçu le randonneur français sur une plage jeudi 8 août, le jour de son départ, aucune certitude en revanche sur la direction qu'a pris Simon Gauthier depuis. Et dans cette zone très escarpée, les sentiers se confondent, se croisent pour parfois déboucher sur des falaises. Une amie de Simon Gauthier que j'ai pu joindre en Italie me confirme qu'ils n'ont aucune piste sûre à 100%.
C'est juste des suppositions, tout ça, parce qu'il a allumé son téléphone à 6h30 et il voulait passer par Saint-Giovanni parce que c'est ce que nous révèlent les historiques de son ordinateur. Mais en tout cas, on est dans cette zone, c'est sûr. Mes amis fouillent dans cette zone.
En attendant d'avoir des pistes plus solides et de récupérer peut-être les dernières coordonnées GPS du téléphone portable de Simon Gauthier, les secours continuent de le chercher sans relâche. Des dizaines de bénévoles, des bergers et des habitants ont apporté de leur aide aux pompiers spécialisés en haute montagne et aux spéléologues dépêchés sur place depuis vendredi dernier.
Merci Victor. J'ajoute que des amis de Simon ont mis en ligne une cagnotte pour aider au financement des recherches qui sont actuellement menées donc en Italie.
Europe 1, 18h07, la suite du journal, Lionel Gougelot, Thierry Dagiral.
En Afghanistan, l'État islamique revendique l'attentat qui a fait 63 morts au cours d'une cérémonie de mariage.
C'est la tuerie de masse la plus meurtrière depuis un an à Kaboul. Il faut y ajouter plus de 180 personnes qui ont été blessées. Un attentat kamikaze qui survient alors que les talibans sont sur le point de signer un accord de paix avec les États-Unis, Frédéric Michel.
Effectivement, Lionel. D'ailleurs, les talibans ont très vite nié toute implication. Les talibans qui livrent une guerre d'insurrection depuis 2001, date à laquelle ils ont été chassés du pouvoir par une coalition menée par les États-Unis. Et dans l'après-midi, c'est la branche afghane du groupe État islamique qui a revendiqué le carnage. Hier, c'était le chaos, une scène de massacre, raconte un blessé. Parmi les morts, 63 personnes, 182 blessés. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants. C'était jour de mariage. Les participants, près d'un millier de personnes, majoritairement des chiites, dansaient, faisaient la fête quand le kamikaze s'est fait exploser. Une communauté qui est la cible régulière des islamistes radicaux sunnites. Et vous l'avez dit, la population afghane, exaspérée par la violence aveugle, espère la conclusion d'un accord de paix en ce moment entre les États-Unis et les talibans. Accord qui ouvrirait la voie à des négociations entre l'actuel gouvernement afghan et le groupe insurgé. Mais certains groupes ont sans doute d'autres intérêts et ils ont peut-être visé juste. Car hier, le président afghan a expliqué que les talibans ne pouvaient s'exonérer de tout blâme car ils servent de plateforme aux terroristes.
Merci Frédéric Michel. À Hong Kong, démonstration de force plutôt réussie pour l'opposition au régime pro-chinois, même si le Front civil pour les droits de l'homme n'a sans doute pas mobilisé le million de manifestants espérés. Ils étaient encore nombreux à défiler et à défier les autorités aujourd'hui sous une pluie battante et sans violence. Le dossier des migrants de l'Open Arms, la France, par la voix du ministère de l'Intérieur, annonce qu'elle se dit prête à accueillir 40 des 105 migrants qui se trouvent actuellement à bord du bateau de l'ONG espagnole au large de Lampedusa. Des migrants qui devront toutefois remplir les critères pour obtenir le statut de réfugié en France. À bord, la situation s'est brusquement tendue aujourd'hui, certains migrants se jetant à la mer pour tenter de rejoindre Lampedusa à la nage.
C'est sans doute une des marques les plus célèbres au monde. Adidas fête ses 70 ans aujourd'hui.
Effectivement, le fleuron de l'économie allemande, hein, je pense qu'on peut le dire. Fleuron qui ne semble pas craindre les menaces de récession qui pèsent outre-Rhin. Ses bénéfices ont bondi de 34% au dernier trimestre. C'est aussi celle qui attire le plus de candidats à un emploi. 1 million de candidatures, mais son siège en Bavière a dû récemment se moderniser pour convaincre les nouveaux talents. Les précisions en Allemagne de notre correspondante Hélène Kohl.
On a beau être dans une forme olympique, pas toujours facile de convaincre les salariés des atouts de la Bavière profonde, surtout quand la ville a un nom imprononçable, Herzogenaurach. Pour ses 70 ans, Adidas vient donc d'inaugurer un tout nouveau bâtiment, ou plutôt un campus, un mélange d'esprit de start-up et d'université américaine. Pas de bureau attitré pour les 5700 personnes qui travaillent là. Chacun se pose où il le souhaite avec son ordinateur. Il est même possible de s'installer directement au bord d'un terrain de foot de 4000 places. D'ailleurs, tout le bâtiment ressemble à un stade et les passerelles font penser à des lacets de chaussures. Devant l'entrée, une statue salue les visiteurs. C'est Adolf Dassler, le fondateur de la marque, celui qu'on surnommait Adi. Adidas. Dans la famille, il y avait aussi Rudy, le frère ennemi. Après une dispute légendaire, il quitte la cordonnerie familiale et crée sa propre marque de chaussures de sport au nom, lui aussi, mondialement connu. Il s'agit de Puma, dont le siège se trouve juste de l'autre côté de la rivière. Les deux frères continuent de diviser la ville. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Sacrée histoire quand même, hein. Hélène Kohl en Allemagne. Vous êtes plutôt trois bandes ou virgule?
J'avais posé la question, vous êtes à 10 ans sur le Puma. Merci à vous Lionel, c'était le journal présenté par Lionel Gougelot. Dans un instant, les sports, mais tout de suite la météo. Valérie Darmon, toujours 12 départements de l'Est de la France en vigilance orage. Prudence bien sûr Valérie, hein.
Et oui, depuis le milieu de l'après-midi et jusqu'en matinée de demain lundi, des orages se développent sur un axe allant de l'Occitanie à la Lorraine et à l'Alsace. Ces orages s'annoncent forts. Météo France attend de fortes pluies, de la grêle, des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, localement davantage et surtout une activité électrique soutenue, tout particulièrement entre le Midi Toulousain, le Massif Central, Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. Ce temps très instable va persister jusqu'à mardi sur le sud de la France. Ils vont remonter ces orages au fur et à mesure des vagues orageuses des Pyrénées aux Alpes et au Jura. Il sera alors tombé l'équivalent d'un mois de précipitations avec des risques assez importants d'inondations avant une amélioration prévue pour mercredi.
Merci beaucoup Valérie. Retour de la météo à 18h30.
Le journal des sports.
Avec Marie Ida, bonsoir Marie.
Bonsoir.
On commence avec le football, avec la fin de la deuxième journée de Ligue 1.
Et un match en cours, c'est le début de la deuxième mi-temps où on le retrouve Damien Ardoy. Damien, où en est-on?
C'est reparti depuis 5 minutes dans cette seconde mi-temps entre Reims et Strasbourg, toujours 0-0. Il y a bien eu quelques opportunités dans cette rencontre de part et d'autre, mais toujours pas de but, donc rien de très inquiétant pour les gardiens. Notez des tentatives de Dia, Romao ou encore Chavalerin pour Reims. Une belle situation pour Djikou pour Strasbourg, mais le score reste assez logique pour le moment. La légère domination rémoise n'arrive pas à contrecarrer les plans de la solide défense alsacienne. Ça manque clairement de créativité. 0-0 donc après 51 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps entre Reims et Strasbourg.
Merci Damien Ardoy en direct de Reims pour Europe 1. Cet après-midi, Saint-Etienne et Brest se sont quittés sur un match nul un partout. Ce soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes sans Neymar comme dimanche dernier. L'avenir du Brésilien est toujours incertain, que ce soit à Paris ou en Espagne. En attendant, il est écarté du groupe. Coup d'envoi à 21h, un match à suivre dans Europe 1 Sport avec Lionel. Lionel Rousseau à partir de 20h.
L'équipe de France de rugby démarre bien sa préparation pour le Mondial en septembre prochain au Japon.
Oui, à 5 semaines du début de cette Coupe du Monde, le 15 de France, emmené par le duo Jacques Brunel-Fabien Galthié, s'est imposé 32-3 contre les Écossais, sérieux et appliqué surtout en défense. Les Bleus sont bien rentrés dans leur match dès le début de la rencontre. Simon Rubin, vous avez suivi la rencontre pour Europe 1. Un succès qui redonne un peu le moral aux joueurs de l'équipe de France.
Oui, effectivement, il y avait des sourires hier soir à la sortie du stade après ce succès. Alors aujourd'hui, les Bleus ont pu se reposer, récupérer après un match qui a été éprouvant. Il faut dire que la préparation physique très intense a énormément fatigué les joueurs, mais ça, c'était absolument prévu. Alors demain, il y a un entraînement léger qui est au programme avec du public pour entretenir un petit peu ce moral au beau fixe. Et puis ensuite, les Bleus, ils vont reprendre les séances plus poussées. Après ce premier match, ce sera aussi le retour des séances vidéo pour analyser les bons, les mauvais points du match d'hier. Donc en fait, cette semaine qui arrive, le 15 de France va vraiment commencer à installer une routine qui sera finalement celle du Mondial, avec un match par semaine, avec l'enchaînement des séances. C'est vraiment une manière d'amorcer la dernière ligne droite avant le Japon dans un mois.
Simon Rubin, envoyé spécial à Nice pour Europe 1. Prochain rendez-vous de l'équipe de France, ce sera samedi 24 août à 14h contre l'Écosse, mais à Édimbourg cette fois.
En basket à présent, l'équipe de France se rassure avant le Mondial en Chine début septembre.
Oui, 3 matchs, 3 victoires pour cette équipe de France dans le tournoi de Lyon. Les Français se sont imposés hier soir face à l'Argentine. Mais un petit point noir, le forfait pour la Coupe du Monde d'Adrien Moerman, l'un des cadres de cette équipe, blessé au tendon d'Achille. Côté programme, les Bleus s'envoleront pour la Chine en début de semaine prochaine. Le début du Mondial, lui, ce sera le 1er septembre prochain contre l'Allemagne.
Et le journal des sports était présenté par Marie Guida. Merci Marie, vous revenez après le journal de 19h. À tout à l'heure.
Europe 1.
Dans un instant, notre première invitée ce soir, une affaire de pédocriminalité qui est devenue cette semaine un scandale international. Retour sur le suicide du financier Jeffrey Epstein avec la journaliste franco-américaine Anne Toulouse. A tout de suite sur Europe 1.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
Europe 1, 18h16, votre grand journal du soir continue avec vous, Thierry Dagiral. 8 jours après le suicide du financier américain Jeffrey Epstein, vous revenez sur cette affaire et ses zones d'ombre avec la journaliste franco-américaine Anne Toulouse.
Bonsoir Anne Toulouse.
Bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. 10 août dernier, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule, suicide par pendaison. C'est un homme d'affaires de 66 ans. Il était accusé de trafic sexuel de mineurs et d'association de malfaiteurs. Son procès devait avoir lieu en juin 2020. Suicide ou assassinat? Ça a beaucoup spéculé sur les réseaux sociaux cette semaine.
Oui, c'est une affaire qui s'est greffée avec tout ce qu'il faut pour faire remonter la fièvre sur les réseaux sociaux, puisque vous avez tout, vous avez le sexe, l'argent, le pouvoir et beaucoup de zones d'ombre, non seulement dans la mort de Jeffrey Epstein, on ne sait toujours pas comment il est mort. Il paraît vraisemblable qu'il soit suicidé parce que cet homme qui était un personnage flamboyant, très arrogant, très fier de lui, se retrouve d'un seul coup dans une cellule en ciment, dans des conditions qui sont assez sordides. Il essaie d'en sortir plus ou moins parce qu'il avait engagé une vingtaine d'avocats qui se relayaient. Alors à chaque fois, on ne peut pas lui interdire de voir son avocat, donc il passait une partie de la journée avec ses avocats. Mais néanmoins, il apparaissait très déprimé. Maintenant, il est quand même extraordinaire que l'on puisse se suicider alors qu'on est un prisonnier qui est quand même extrêmement surveillé parce qu'il est porteur de lourds secrets. Bon, c'est une... Je ne sais pas si on saura la vérité sur cette histoire.
On va décortiquer cette affaire. Les enquêteurs ont dévoilé un réseau tentaculaire de jeunes filles, parfois mineures, qui se rendaient chez lui à Palm Beach, à New York ou encore sur son île privée dans les îles Vierges britanniques. Des faits qui datent de 2002 à 2005, c'est ça hein?
Oui, même sûrement avant. C'est à partir du moment où il y a des plaintes contre lui, on découvre ce réseau pédophile. Mais il est bien certain que Jeffrey Epstein ne s'est pas découvert pédophile du jour au lendemain. Il a toujours plus ou moins fait ça. C'est un homme qui n'a aucune vie privée, en fait. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfants, il a très peu de famille. Et il ne fait que travailler ou se livrer à son passe-temps favori qui est la pédophilie. Et même son travail est assez obscur. On ne sait pas trop d'où vient son argent. Il est conseiller. Alors, il a des clients au-dessus $1 million et il les aide à investir cet argent le plus loin possible du fisc. Ouais. Mais on ne sait pas ce qu'il possède personnellement, on ne sait pas d'où venait son train de vie. C'est vraiment un personnage extrêmement mystérieux.
Il faut rappeler, Anne Toulouse, qu'en 2007, Jeffrey Epstein avait déjà été visé par des accusations similaires. En 2007, donc précisément en Floride, il avait évité le procès. Il avait même été autorisé à quitter sa cellule en journée pour se rendre à son travail. Il a été aidé.
Oui, certainement. Il a eu ce qu'on appelle un sweet deal. C'est vraiment un accord très avantageux, c'est-à-dire qu'il a plaidé coupable. Il a été quand même sur la liste des prédateurs sexuels. Et il a été condamné, je crois, à 2 ans de prison, mais il n'en a fait que 13 mois dans les conditions que vous venez de décrire.
Ça veut dire qu'il a été par des politiques, par des puissants.
C'est-à-dire que le procureur, qui est devenu plus tard le ministre du Travail de Donald Trump, mais enfin, ceci n'a rien à voir avec cela, a été extrêmement gentil avec lui. Alors, il y a eu aussi une histoire rocambolesque qui court autour de ça. On dit que, comme c'était en 2008, au moment de cette crise terrible financière qu'il y a eu aux États-Unis, il aurait peut-être fourni des informations au FBI, des informations financières. Mais ça, ça fait partie des innombrables rumeurs qui courent autour de cette affaire.
On le dit proche de Bill Clinton, l'ancien président américain.
Oui, alors par là aussi d'une façon assez curieuse, parce que c'est par l'intermédiaire de celle qui a été son inspiratrice, sa maîtresse, sa meilleure amie, et qui elle-même a une histoire extraordinaire, puisque c'est Ghislaine Maxwell, qui est la fille du financier de Robert Maxwell, qui lui-même a une histoire extrêmement curieuse, et donc qui était extrêmement proche et qui est une de ses rabatteuses, d'ailleurs.
Qui est recherchée toujours. Hein.
Oui, enfin, on l'a aperçue. Et ce qui est assez curieux, d'ailleurs, c'est que Ghislaine Maxwell est un... Vous savez, dans l'affaire Epstein, on dit qu'il y a 2 Français impliqués. Ouais. Et Ghislaine Maxwell est une des 2 parce qu'elle est française, en fait. Elle est née en France et sa mère était française.
On sait précisément quel aurait été son rôle
Non, on ne sait pas trop. Il y a des plaintes contre elle. Et donc, elle était amie avec Chelsea Clinton, qui dit évidemment ne pas la connaître aujourd'hui. Mais enfin, plus personne ne connaît personne dans cette affaire. Ouais. Et donc, par elle a... il a connu Bill Clinton et il avait une admiration profonde pour Bill Clinton et il disait qu'il collectionnait les hommes. Et Bill Clinton était une des pièces de sa collection. Alors officiellement, il l'a emmené dans son avion 15 ou 20 fois pour faire des tournées charitables en Afrique. Parce que Jeffrey Epstein faisait aussi beaucoup dans le charity business. Et donc, officiellement, ils se sont connus comme ça. Il n'empêche que Bill Clinton a utilisé ces avions qu'on appelait les Lolita Express, puisqu'il y avait toujours des jeunes filles à bord, des jeunes filles extrêmement jeunes. Bon, ça ne veut pas dire que Bill Clinton ait été impliqué le moins du monde, mais il le connaissait. Ghislaine Maxwell a été invitée au mariage de Chelsea en 2010, alors que Epstein avait déjà été condamné, était sur la liste des prédateurs sexuels. Et on voit qu'elle est très très bien placée parmi les invités. Donc tout ça aussi, c'est...
Vous avez commencé à l'évoquer, il y a un volet français de cette affaire. Le FBI évoque plusieurs personnes de nationalité française, notamment un directeur d'agence de mannequins.
Oui, alors c'est Jean-Luc Brunel, hein, son nom figure dans les actes d'accusation. Parce qu'il y a la rumeur et puis il y a aussi ce qui figure dans les plaintes. Et Jean-Luc Brunel était très proche de Jeffrey Epstein. Ils ont fondé ensemble une agence de mannequins, mais qui a été financée par Epstein et qui apparaît avoir été une couverture pour fournir des jeunes filles, enfin des filles très jeunes.
Il était souvent en France, hein, il faut le dire. Il avait l'appartement près de l'Arc de Triomphe.
Il avait un appartement avenue Foch et on voit au cours des 18 derniers mois de sa vie, il est venu 11 fois en France, dont la dernière fois, puisqu'il a été arrêté à son retour à Paris. Donc il y a tout lieu de supposer qu'il faisait à Paris ce qu'il faisait ailleurs, dans cet appartement dont certains disent que les murs étaient tapissés de photos de jeunes filles en fleurs. Et donc Jean-Luc Brunel, qui lui aussi a disparu dans la nature, qui a plus de 70 ans aujourd'hui, a un lourd passé de rabatteur pour son agence. Et il a été tellement financé par Jeffrey Epstein, qui lui avait même fourni un appartement à Manhattan, que l'on ne peut pas ne pas imaginer qu'il ait été pourvoyeur de ses plaisirs salaces, disons.
L'association Innocence en danger parle aussi de victimes françaises.
Oui, certainement.
L'association a d'ailleurs lancé un appel à témoignages.
Hein. S'il venait à Paris, dans son appartement, avec les fréquentations qu'il avait, on peut imaginer que, comme je le disais, ce qui se passait ailleurs, y compris dans son île des Caraïbes, l'île Saint-James, il devait faire la même chose à Paris. Et je pense qu'il recrutait sur place, si je puis dire.
Une affaire, je le disais tout à l'heure, qui est devenue un scandale international maintenant.
Hein. Énorme. Enfin, ça va être une affaire énorme. Je pense qu'un scénariste d'Hollywood n'aurait pas osé l'écrire. Mais ils l'écriront certainement maintenant parce qu'on peut attendre le livre, le film et le procès parce que ça n'est pas fini, parce qu'il y a des complices et l'affaire ne s'arrête pas avec la mort du principal protagoniste.
Anne Toulouse, journaliste franco-américaine en direct sur Europe 1 ce soir. Je rappelle votre dernier livre, Bienvenue en Trumpy chez Stock. Merci à vous.
Merci à vous aussi.
Europe 1, 18h23, restez avec nous. Votre grand journal du soir revient dans un instant, Thierry Dagiral.
Avec un peu de musique avec Clara Luciani, son dernier titre, le rappel de l'info et la météo des plages. A tout de suite.
Il est est 18h27. Bienvenue sur Europe 1, à suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Dans deux minutes, je reçois Florent Parmentier. Il est expert en géopolitique européenne. Demain, Vladimir Poutine est reçu à Brégançon par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Réponse dans une poignée de secondes. Mais avant cela, le rappel des titres de ce dimanche soir avec vous, Lionel Gougelot.
Et on joue cet après-midi en Ligue 1 à la suite de la deuxième journée de championnat. Depuis 17h, Reims reçoit Strasbourg. C'est la deuxième mi-temps. On en est où, Damien Ardoy ?
66 minutes de jeu, toujours pas de but. 0-0 entre Reims et Strasbourg.
Merci Damien. On vous retrouve évidemment dans le journal de 19h et dans le journal des sports de Marie Guida. Plus tôt dans l'après-midi, Saint-Etienne et Brest se sont séparés sur le score de 1 partout. Ce soir, Rennes reçoit le Paris Saint-Germain, toujours sans Neymar. Une centaine d'habitants de Levallois-Perret ne pourront pas regagner leur domicile ce soir, conséquence du très violent incendie qui a ravagé la nuit dernière le marché couvert de la ville. Leurs logements surplombant les commerces ont été évacués. Une situation de plus en plus tendue à bord du navire de l'ONG Open Arms au large de Lampedusa. Certains des migrants recueillis par les humanitaires se sont jetés à l'eau aujourd'hui, espérant gagner la côte à la nage. Dans le sud de l'Italie, Simon Gauthier, disparu depuis maintenant 9 jours, n'a toujours pas été localisé par les sauveteurs, malgré les renforts arrivés aujourd'hui. L'État islamique revendique l'attentat kamikaze qui a fait 63 morts et plus de 180 blessés lors d'un mariage à Kaboul en Afghanistan. Une tuerie qui survient alors que les talibans s'apprêtent à négocier un accord de paix avec les États-Unis. Et puis de violents orages en fin d'après-midi sur la région Rhône-Alpes. Attention, 12 départements restent toujours placés en vigilance orange pour les orages, donc de la Loire jusqu'à l'Alsace.
Merci Lionel, vous revenez à 19h pour le journal complet. La météo des plages, Valérie Darmon, on commence par la Manche, Valérie.
Eh bien c'est le retour des éclaircies le long de la Manche avec très peu de pluie ou alors des averses très éparses entre Brest et Dunkerque, mais une tendance à l'amélioration réelle et sensible surtout avec toujours une moyenne de 21 degrés. Il faut attendre pour que les températures remontent un petit peu. Une mer peu agitée entre 19 et 20 degrés, 19 par exemple pour le Calvados et 20 pour la baie du Mont Saint-Michel. Sur l'arc atlantique, c'est toujours contrasté. Dans la partie sud, vous êtes un petit peu sous la pluie et surtout des nuages assez bas, depuis Mimizan jusque sur Andaille, par exemple, avec des valeurs aux alentours de 22 degrés. Tandis qu'à partir des Landes jusque sur l'Orient, vous retrouvez de belles éclaircies. Un océan toujours calme, entre 18 dans le Finistère sud et 23 sur la côte basque. Le pourtour méditerranéen s'assombrit de jour en jour avec la vague orageuse qui touche la région du Roussillon ou encore du Languedoc et ses averses qui débordent jusque sur le golfe du Lion avec des valeurs aux alentours de 25 du côté de Sainte-Marie-de-la-Mer ou encore de Collioure et puis des valeurs entre 28 et 27 degrés entre Nice et Marseille. Une Méditerranée toujours assez calme entre 22 et 25 degrés.
Et puis je vous rappelle surtout cette vigilance orage dans l'est de la France, de la Loire à l'Alsace jusqu'à demain matin. Prudence bien sûr si vous êtes en ce moment sur la route. Merci à vous Valérie Darmon.
Europe 1, il est 18h30, la suite de votre grand journal du soir avec vous Thierry Dagiral. À 5 jours du sommet du G7 à Biarritz, le président russe Vladimir Poutine sera reçu demain à Brégançon dans le Var par Emmanuel Macron. Vous recevez pour en parler Thierry Florent Parmentier, professeur à Sciences Po et expert en géopolitique européenne.
Bonsoir Florent Parmentier.
Bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir dans les studios d'Europe 1. Ce sera le gros rendez-vous de demain en fin d'après-midi. Que cherche Emmanuel Macron en recevant demain Vladimir Poutine?
Vladimir Poutine vient en France rencontrer Emmanuel Macron pour la raison suivante. C'est qu'il y a trois grands enjeux diplomatiques qui seront au cœur des relations entre les deux et des rencontres de demain. Le premier, c'est précisément ce que vous avez mentionné, la préparation du sommet de Biarritz qui aura lieu dans 5 jours.
Et donc, il faut rappeler que la Russie ne participe pas.
Hein, n'en fait plus partie en fait, au G7. G7, qui était G8 temps, mais elle en a été exclue en 2014 suite à la crise et à la guerre en Ukraine. Donc on a la volonté de la part du président français d'associer le président russe à un certain nombre de choses qui seront faites dans ce cadre.
C'est un peu le porte-parole finalement, c'est lui qui va rapporter Emmanuel Macron aux 7 dirigeants du G7, enfin à ses homologues, cette conversation qu'il aura demain avec Vladimir Poutine.
À cette occasion, Emmanuel Macron va tenter de devenir un peu l'interlocuteur privilégié de la Russie en Europe. Pourquoi ? Parce que si on regarde en fait autour de lui, Angela Merkel, la chancelière allemande, sort plutôt affaiblie finalement des derniers mois. On sent qu'elle est plutôt sur la fin de son mandat. Il y a également donc un certain nombre de difficultés en Grande-Bretagne. On voit bien que Boris Johnson, effectivement, a d'autres problèmes en tête actuellement. L'Italie est en crise gouvernementale. ne reste finalement dans les grands États européens que la France. Et je
crois qu'Emmanuel Macron se dit qu'il y a une carte à jouer finalement.
Il y a une carte à jouer, et ce qui est intéressant, c'est de voir que du côté de la Russie, le président Poutine est là pour se dire finalement qu'aller en France, c'est en quelque sorte entériner une idée qu'il souhaite faire passer depuis 2014, qui est que la Russie n'est pas isolée, et donc il y a là, de ce point de vue-là, une opportunité pour le président russe. Ouais. Et une opportunité du côté français, qui est de se dire, en accueillant Vladimir Poutine à Brégançon, je vais peut-être jouer à la fois, faire une sorte de porte-parole ou d'intermédiaire sur le G7, mais je vais également pouvoir peser sur deux autres sujets diplomatiques importants. Ces deux sujets, bien évidemment, c'est la crise iranienne et c'est la question ukrainienne.
Justement, il a besoin de lui sur l'Iran. Ce dossier iranien va être au cœur de la conversation, j'imagine, demain.
Oui, pourquoi? Eh bien, d'abord parce que la remise en cause par les États-Unis de l'accord iranien sur le nucléaire met l'Iran dans une situation difficile de sanctions économiques de plus en plus dures. Et de ce point de vue-là, ce qu'on peut observer, c'est que la Russie, finalement, entretient des rapports qui sont parfois ambigus avec la Syrie, mais enfin, avec l'Iran, mais néanmoins avec un certain nombre d'acquis dans les relations. On aura très prochainement des manœuvres maritimes russo-iraniennes. Et donc, ce que ça montre, c'est que sur le dossier iranien, comme sur d'autres dossiers dans la région, la Russie est un interlocuteur, finalement, difficilement contournable. C'est vrai en Iran, c'est aussi vrai dans le Moyen-Orient sur la question syrienne, pour laquelle la Russie a bien évidemment un rôle dans la résolution du conflit à venir, qui sera importante, mais c'est également vrai d'un pays comme la Turquie. Un pays comme la Turquie, qui est membre de l'OTAN, a tout de même acheté des systèmes de défense antimissile aérienne S-400 russes, et donc ça, c'est également quelque chose d'important. On voit qu'il y a véritablement, de la part de la Russie, l'envie de jouer un rôle au Moyen-Orient, et l'Iran est une pièce maîtresse.
Florent Parmentier, je rappelle que vous êtes expert en géopolitique européenne. Ça, c'est les dossiers, j'ai envie de dire, à court terme, à long terme. Emmanuel Macron veut sans doute aussi empêcher que la Russie ne dérive vers la Chine.
Oui.
C'est aussi cet enjeu-là, quoi.
C'est également, effectivement, peut-être le point de départ de sa réflexion, qui est de se dire que la Russie est un partenaire très difficile. Les Russes, les dirigeants russes n'ont pas fait particulièrement de cadeaux à Emmanuel Macron dans le cadre de sa campagne présidentielle. Et dès le départ, on sent qu'il y a à la fois des tensions, des rivalités franco-russes, des rivalités notamment en Afrique, avec la question de la Centrafrique, où la Russie maintenant fait office d'agent de sécurité. Il y a eu des tensions. On a pu observer, par exemple, au moment de la crise de l'affaire Skripal, de l'espion russe qui était présent en Grande-Bretagne. Mais il y a également un certain nombre, peut-être, de timides rapprochements qui sont en train de s'opérer. On peut observer, par exemple, sur quelques points très particuliers, Emmanuel Macron était l'invité l'an passé du Forum international de Saint-Pétersbourg, qui est une sorte de Davos russe. On a vu que Dimitri Medvedev était invité en France en juin dernier, à l'invitation d'Edouard Philippe au Havre. Donc on voit une sorte de renforcement. Mmh. Et puis, sur le plan diplomatique, la diplomatie française a pesé pour un retour de la Russie au sein du Conseil de l'Europe. Et donc, on a un certain nombre comme ça de points, et puis peut-être le dernier en date, la libération du banquier Philippe Delpal, qui est présent en Russie depuis un certain nombre d'années, qui envoie un signal aux acteurs économiques.
On a évoqué l'Iran, on a évoqué la Syrie. Emmanuel Macron peut faire bouger Poutine sur ces dossiers, parce que les tentatives précédentes, il faut le rappeler, n'ont pas forcément été très concluantes.
Peut-être. Ce qui est certain, c'est que sur l'Iran, nous sommes à un certain degré de la crise où les deux acteurs protagonistes principaux, les États-Unis comme le côté iranien, on a peut-être encore un peu de réserve dans l'escalade. Et donc, on n'est pas encore à un stade critique. On est peut-être à un stade différent de la crise en ce qui concerne l'Ukraine. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important qui sera au centre des relations également entre les deux hommes demain. Pourquoi? D'abord parce que l'Ukraine a depuis le printemps un nouveau président, Volodymyr Zelensky, qui vient avec des intentions assez différentes de celles de Petro Poroshenko, son prédécesseur. Il a, depuis la fin juillet, une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Son programme est assez clair, son discours en tout cas est le suivant. Si je dois sacrifier ma popularité pour faire une paix dans le Donbass, j'irai. Alors évidemment, on ne résoudra pas à cette occasion la crise de Crimée. En revanche, dans le cadre des réunions de format Normandie qui auront lieu à l'automne, il est vraisemblable que le dossier sera abordé, ou peut-être prépare-t-on à ce moment-là des avancées. Il ne faut pas attendre certainement d'avancées fracassantes, mais en tout cas un certain nombre d'avancées pour la suite.
Dernière question, rapidement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est la troisième fois qu'il se voit de façon, j'ai envie de dire, personnelle, privée. Quelle est leur relation personnelle ?
Alors, on a deux personnes avec des caractéristiques extrêmement différentes. Ouais. On a d'un côté quelqu'un qui a 2 ans d'expérience en tant que président, une autre personne qui a 20 ans d'expérience au pouvoir.
Bien sûr.
On a un président français qui est plus jeune de 25 ans de son homologue. On a d'un côté quelqu'un qui est plutôt vient des milieux économiques, Emmanuel Macron. Vladimir Poutine vient plutôt des milieux de force et du renseignement. Résultat, on peut voir que finalement, ils ont beaucoup de points de différence, mais que l'un peut être besoin de l'autre réciproquement, et c'est peut-être ça qui permettra de mettre en place un certain nombre d'avancées demain.
Voilà les clés pour comprendre la visite de Vladimir Poutine demain à Brégançon. Florent Parmentier, expert en géopolitique européenne, je signale la sortie en octobre prochain de votre prochain livre, La Moldavie à la croisée des mondes, c'est aux éditions Non-Lieu. Un grand merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1, 18h37, à suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagiral, votre interview média.
Et ce soir, je reçois Eric Fotorino. Vous savez, c'est l'ancien patron du Monde. Il a créé Le 1, Zadig et America. Et ça marche. À tout de suite.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Votre grand journal du soir, la suite. Thierry Dagiral, c'est l'heure de l'interview média. Vous recevez ce soir un patron de presse, Eric Fotorino.
Bonsoir Eric Fotorino.
Bonsoir Thierry Dagiral.
C'est un peu un succès que je voulais célébrer avec vous ce soir. Vous avez lancé Le 1, puis America, puis Zadig, un trimestriel. Il n'y a pas de pub, vous êtes indépendant et ça marche.
Eh oui, je ne prétends pas avoir créé un modèle infaillible, hein, loin s'en faut. Je crois que quand on a du succès, il faut surtout à la fois rester humble et puis comprendre pourquoi il est là. C'est-à-dire, en l'occurrence, pourquoi on arrive à fidéliser des lecteurs, des lectrices de tous les âges.
Et pourquoi, selon vous ?
Toute génération. Mais écoutez, comme toujours, quand on réussit quelque chose, il n'y a pas une raison. La première, c'est qu'on est vraiment dans une promesse de lecture claire. C'est-à-dire que ce soit Le 1, America ou Zadig, je peux dire en quelques mots qu'est-ce qu'ils racontent, pourquoi on les fait. Le 1, c'est raconter un sujet d'actualité chaque semaine avec plusieurs regards. Oui. America, on parle de l'Amérique de Trump vue essentiellement par des écrivains américains et européens. Et puis Zadig, on raconte la France. Moi, je dis souvent que nos journaux sont des journaux d'inactualité. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Bien sûr qu'on a des échos avec ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, l'actu. Mais on essaie précisément de faire le pas de côté ou de prendre l'angle ou les angles qui vont dire autre chose sur ce dont tout le monde parle. Vous savez, l'écrivain Colette disait toujours écrire comme personne avec les lettres et les mots de tout le monde. Bien, c'est ça. On a l'actu de tout le monde, on a ce que tout le monde sait, mais on va essayer de le raconter autrement.
On va regarder de plus près Zadig. Le numéro 2 est sorti en juin dernier, Eric Fotorino. C'est un numéro consacré à la nature, avec des contributions de Sylvain Tesson, de Jean Viard, d'Isabelle Autissi notamment. Vous faites appel à des contributeurs connus dans différents domaines. Est-ce que c'est facile de les convaincre ?
Je crois que Le 1 a été vraiment notre banc d'essai de crédibilité.
Ouais.
C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où, pour Le 1, j'ai un souvenir très précis, Le 1 n'existait pas encore et je voulais que les écrivains soient très présents dans ce regard sur des thèmes uniques. J'ai appelé, je me souviens, Jean-Marie Le Clézio, qui était à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je lui ai dit, voilà ce que je voulais faire. Il m'a dit, écoutez... Ça m'intéresse, je vous écris un texte. Et pour la petite histoire, je lui avais demandé 6500 signes, donc une longueur très précise, et il m'en avait envoyé 9000 et il m'a dit bah, « vous couperez ». Bon, et ben, vous voyez, cette confiance, elle est arrivée très vite. Parce que je crois que les auteurs ont vu qu'on mettait en avant, bien sûr, leurs écrits, leurs contributions, mais ils ont vu aussi qu'on était, pas, on était dans une approche inspirante, un peu différente, qu'on allait chercher du fond, et qu'on n'était pas non plus des intellos qui considéraient qu'un bon journal était un journal incompréhensible.
Le prochain numéro de Zadig sort quand ? Est-ce que vous connaissez déjà le titre, le thème de ce troisième numéro ?
Oui, bah écoutez, vous savez, en vacances, on n'est jamais en vacances, donc pendant l'été, on a travaillé, on a terminé il y a maintenant une bonne quinzaine de jours, le numéro 3 de Zadig, parce que c'est un trimestriel. Il sort le 5 septembre dans tous les kiosques et les librairies. Et il s'appelle « Le travail, travailler, pourquoi faire ?» Et donc, avec notamment un magnifique entretien avec Pierre Lemaître, et puis un texte de Jean-Paul Kaufmann, vraiment très très fort, très personnel. Et puis Dominique Méda, des grands spécialistes du travail, beaucoup d'enquêtes sur l'univers du travail. Voilà, donc Nina Bouraoui aussi sera là. Enfin, on a... Et puis toujours Mathieu Sapin qui nous raconte la Macronie, toujours Catherine Meurice qui ouvre avec son regard à elle, avec sur une double page dessinée. Voilà, donc on a à la fois des, ce que j'appellerais des invariants, des rendez-vous, et puis des surprises. Vous savez, je crois qu'il faut toujours surprendre le lecteur. Il faut d'abord nous surprendre nous-mêmes. Je crois que c'est une des recettes aussi. Enfin, j'aime pas parler de recettes, mais c'est plutôt, hein, c'est surtout, comment dire, une manière de se surprendre soi-même pour être à peu près sûr qu'on va aussi surprendre nos lecteurs.
Éric Futorino, America, qui était donc censé raconter, qui raconte très bien cette Amérique de Trump, c'était juste pour un mandat de Trump. Il y aura un second mandat pour vous ?
Bon, d'abord, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est vraiment une idée originale de François Bunel, qu'il a
de
voulu,
la grande librairie de France 5.
Voilà, et qu'il a voulu qu'on lance ensemble avec les équipes du 1, il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Alors, évidemment, à ce stade, plus de 40 000 acheteurs chaque trimestre. On n'a pas envie de les laisser au bord de la route dans un an et demi en leur disant bah, écoutez, au revoir, America, ferme boutique. Mais en revanche, on ne peut pas non plus leur proposer exactement la même chose, puisqu'on aura déjà quand même beaucoup labouré cette Amérique avec les grands thèmes sur les religions, sur le FBI, sur les femmes, sur beaucoup de le rêve américain comme cet été encore. Donc, le pari, le défi qu'on s'est donné avec François Bunel et Julien Bisson, qui est le rédacteur en chef, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux lecteurs d'América lorsque, si jamais, Donald Trump était réélu. Voilà, on n'a pas encore la réponse, mais déjà se poser la question est important.
Vous avez été, Éric Futorino, le directeur du Monde, vous l'avez dit. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce quotidien ?
Bah écoutez, c'est toujours d'abord mon quotidien, hein. J'y suis abonné, je suis un lecteur fidèle, attentif et critique comme je l'étais. Vous savez, quand vous êtes directeur d'un journal, vous êtes le premier critique de ce journal, autrement vous n'avancez pas. Donc j'ai un regard à la fois bienveillant, avec un peu d'inquiétude, parce que plus sur, je dirais, les mouvements capitalistiques qui sont en train de se dessiner avec l'arrivée de Daniel Kretchinsky, avec le fait qu'avec Mathieu Pigas, l'autre actionnaire, il soit en train d'essayer de prendre une majorité avec le contrôle des biens, des parts espagnoles. Bon, moi, si vous voulez, c'est vrai que j'ai quand même une interrogation sur la capacité de ce journal à maintenir une indépendance éditoriale telle qu'il a pu quand même, bon gré mal gré, la maintenir, si jamais les intérêts capitalistiques deviennent trop importants. Ouais.
Est-ce que la presse quotidienne française aujourd'hui est trop marquée, selon vous, influencée par les réseaux sociaux ?
Ben, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, moi je dis souvent, ce sont plutôt des réseaux asociaux, parce que j'ai l'impression qu'ils défont la société plus qu'ils ne la font ou ils ne la refont. Hein, c'est le fameux mot de Camus, quand on est jeune, on rêve de refaire le monde, mais l'important c'est d'essayer de ne pas le défaire. Ben, je pense qu'on est dans un environnement qui défait plus qu'il ne fait. Et donc c'est vrai que je ne pense pas que les grands médias soient en train de défaire la société, mais en tout cas les réseaux sociaux... puisqu'ils sont dans l'instantanéité, c'est-à-dire le contraire de la réflexion. Pour moi, les algorithmes, c'est le contraire de la réflexion. C'est, comme le dit Michel Serres d'ailleurs dans le dernier Zadig, c'est une recette, voilà, comme la tarte tatin, c'est une recette. Mais cette recette, elle est à base d'intelligence artificielle. Et moi, je pense qu'il faut toujours avoir la vigilance de l'intelligence humaine.
Éric Futorino, dernière question. Vous êtes le papa donc d'América avec François Bunel, de Zadig, du 1. Dans votre esprit, là, en ce moment, il y a l'idée d'un quatrième titre ?
Non, je pense qu'il faut, il faut consolider déjà ce qu'on fait. Ça, c'est très important. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas tant l'idée de lancer un titre comme ça de demain matin. Je ne fais jamais comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut réfléchir à l'Europe, comment les médias peuvent s'emparer du phénomène européen. Et je pense que ce serait le moment. Donc, c'est vrai que j'aime bien réfléchir à cette idée-là. Je la caresse. Mais bon, d'abord, mon équipe me dit, Eric, il faut se calmer de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir des envies et des idées. Après, qu'est-ce qu'on met vraiment en route après? Ça, c'est une autre histoire.
À suivre donc, du contenu, de la qualité, du beau papier, ça marche. Merci à vous, Éric Futorino. Bonne soirée.
Merci vous aussi.
Europe 1.
Et dans un instant, Géraldine, je vous propose un voyage en Italie, ça vous va ?
Très bien.
Et un voyage en Lorraine.
Parfait.
Ce sera la balade gourmande avec Marion Sauveur qui a dans son panier ce soir des mirabelles. On revient, ne bougez pas.
Il est 18h51, c'est le moment de notre balade gourmande, Thierry Dagiral. Oui, bonsoir Marion Sauveur.
Bonsoir.
Alors avec vous, nous redécouvrons par la fourchette nos belles régions de France. Où est-ce que vous nous emmenez ce soir, Marion ?
Eh bien, dans un verger. Allez, je vous aide, c'est dans l'est de la France.
Ah, dans un verger de Mirabel.
Exactement, puisque la récolte vient tout juste de débuter en Lorraine cette semaine. C'était lundi. La Mirabel, vous savez, c'est une prune jaune tachetée de rouge, à la peau fine, à la pulpe juteuse et sucrée. Elle n'est pas acide du tout, c'est un délice. Et regardez, vous en avez une devant vous, Thierry.
Je vais goûter.
Alors, la récolte a commencé il y a quelques jours. La saison est courte, hein, puisque sa production ne dure que 6 semaines. Il ne faut donc pas attendre pour la consommer. Les 3/4 de la production mondiale poussent en Lorraine et c'est pour ça que la Mirabel est le fruit emblématique de la Lorraine. Et elle dispose d'ailleurs de l'indication géographique protégée, l'IGP. Bon appétit. Et pourtant, cette petite prune jaune n'est pas originaire d'Europe au départ. Comme me l'a expliqué Sabine Gralet-Dupic, c'est la productrice de Mirabel à la tête de la maison de la Mirabel à Roselières.
Comme beaucoup de fruits rares et anciens, il y a beaucoup de légendes et de mystères autour de la Mirabel. Tous les scientifiques s'accordent à dire que la Mirabel, comme toutes les autres prunes, elle est d'origine orientale. Après, on dit qu'elle aurait été implantée en Lorraine par des Romains, parce qu'en fait, on a trouvé à Grand, dans les Vosges, et puis à Jouy-aux-Arches aussi, des noyaux de Mirabel. Quand il y a eu des fouilles archéologiques, la Mirabel aurait pu être implantée donc par les Romains. On pense aussi que c'est peut-être René II, le duc d'Anjou et de Lorraine, qui aurait aussi planté ses premiers mirabelliers et, dans un domaine de Mirabeau, d'où le nom de Mirabel aussi.
Et puis les Lorrains se sont mis ensuite à planter des mirabelliers un peu partout, particulièrement à la fin du 19e siècle, après l'hiver glacial de 1879, dont le froid avait décimé toutes les productions locales, et la crise du phylloxéra, ce puceron qui a détruit une grosse partie des vignes à la fin du 19e siècle. Alors pourquoi le mirabellier ?
Et oui, pourquoi ?
Tout simplement parce que c'est un arbre qui résiste aussi bien aux températures froides que chaudes. Et donc c'est parfait pour la Lorraine. Il a fallu tout de même attendre les années 1970 pour qu'une vingtaine de producteurs aient l'idée de développer la production de Mirabel. Et c'est comme ça que la Mirabel est donc devenue le fruit emblématique de la Lorraine.
Alors Marion, la Mirabel, on la croque nature comme je viens de le faire. On peut aussi la cuisiner. Hein.
Et bien sûr, on peut l'agrémenter dans des plats avec une viande par exemple, si on aime le sucré salé. Mais la spécialité lorraine en la matière est surtout sucrée, la tarte à la Mirabel.
Ah oui, ça, c'est bon.
Oh oui, c'est une gourmandise à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer si vous allez dans la région. Voici toutes les astuces de Sabine Gralet-Dupic pour réaliser une bonne tarte.
Vous prenez une pâte à tarte brisée, vous la piquetez avec une fourchette. Il faut dénoyauter les mirabelles. Alors il faut utiliser un couteau et puis vous l'ouvrez en deux, puis vous enlevez le noyau. Quand elles sont bien mûres, le noyau part aisément. Et donc l'astuce vraiment, c'est que vous mettez la mirabelle côté bombé sur la pâte. Si vous ouvrez les mirabelles et que vous mettez le cœur sur la pâte, le jus de la mirabelle va tremper la pâte. Au contraire, si vous mettez le côté bombé sur la pâte, eh bien la pâte ne va pas être trempée et donc elle sera croustillante. Faut la mettre au four, une cuisson d'une demi-heure à peine. Quand vous ouvrez le four, elle est un petit peu orange, a une belle couleur. Puis la pâte aussi, qui est bien cuite, croustillante, prête à être dégustée. Oh, ça donne envie, hein.
N'est-ce pas Thierry, ça donne envie.
Clairement, oui, clairement. Marion, comme chaque week-end, on va passer un coup de fil à un chef qui revisite la spécialité dont on parle. Bonsoir Benjamin Royer.
Bonsoir Thierry, bonsoir Marion.
Bonsoir.
Alors vous êtes le chef du restaurant La Cour des Sens à Saint-Tré, au cœur de la Lorraine. Vous y réalisez une cuisine simple et gourmande. Et ce soir, vous revisitez la tarte à la Mirabel, mais en version salée. C'est quoi cette histoire ?
Tout à fait.
Comment ça marche ?
Comment ça marche ? Eh bien, on va utiliser pour la pâte, on va faire un crumble.
D'accord.
Et puis, est-ce qu'il était tout simple ? On pourrait peut-être y ajouter un peu de fromage. C'était les périodes des vacances, donc les gens voyagent. Il y a le reblochon. Et si on faisait un crumble avec du reblochon ?
Reblochon, Mirabel, ouais.
Voilà. On prend la farine, du beurre, du reblochon, un petit peu de poudre d'amande, on met ça dans le robot. On en fait une pâte. On met un petit peu au frais, on étale. Et là, on fait cuire au four à 220, histoire que ça colore rapidement. Et puis avec ce même reblochon, on va le faire fondre dans un petit peu de lait, on va faire une royale. Donc c'est comme un petit flan.
Ah oui.
On va faire fondre dans du lait, on va rajouter nos œufs, et on va faire cuire au bain-marie, au four, à 160, tout doucement, pendant une vingtaine de minutes. Pour nos mirabelles, on va tout simplement les faire poêler, donc on va les dénoyauter du même principe. Hein. On les ouvre en deux, on enlève le noyau, et là on les fait sauter au beurre salé.
Un peu de gourmandise.
Ouais, c'est ça. Ça prend 5 minutes à la poêle, là, ça chante, tu vois, c'est vraiment sympa. Et puis, pour donner un peu de pep à la recette, on va faire une petite émulsion à la bergamote.
Ah, c'est de la région, la bergamote, forcément.
Ouais, voilà, c'est un petit peu notre fer de lance aussi, hein, la mirabelle, la bergamote, c'est deux produits de chez nous. Là, l'idée, voilà, c'est bon, on râpe les zestes, on prélève le jus, on fait réduire ça de moitié, on verse une bonne louchette de lait entier de la ferme, et puis on va mixer avec un mixeur plongeon, un mixeur à soupe, vous savez, des mamans, là. Et du coup, ça nous fait plein de petites bulles d'air. Du coup, le visuel est tout à fait sympa.
C'est léger et fondant en bouche, en fait. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis, ça va vraiment nous apporter le petit twist pour toute la recette. Donc là, une fois qu'on a poêlé nos mirabelles, on les dresse dans une assiette creuse, assez large si possible. On va disposer notre flan, notre petite royale de reblochon au milieu. On va parsemer de morceaux de crumble qu'on aura cuit. Donc, le crumble, on peut le faire 2-3 jours avant et on peut le conserver dans une boîte en chair comme des biscuits des mamies. Et puis, voilà. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est rajouter un petit peu de copeaux de vieille mimolette.
Ah, bah oui. Oui. Un peu de gourmandise encore.
Oui, bah, je suis désolé.
C'est ça, en Lorraine.
Mais on adore, on vous suit et on va venir.
Ben oui, vous avez dit qu'il faisait frais chez nous, donc il fallait en magazine des calories quand il faisait beau.
Et du coup, c'est une tarte que vous dressez à l'assiette. En fait, c'est une sorte de tarte tatin, c'est ça, revisité.
Un petit peu décuplé, ouais. C'est ça. Et du coup, le crumble, on le parsème comme ça en le cassant un petit peu dans les mirabelles. Les copeaux de mimolette, pareil. Et dessus, on va prélever à la cuillère juste la mousse de la petite émulsion de bergamote. Comme ça va nous donner des couleurs, ça va nous donner des textures. La petite mousse qui est par là, le copeau de fromage, le croustillant. Des bonnes petites choses.
C'est superbe.
Pas mal pour un dimanche soir.
Merci beaucoup, Benjamin Royer. Je rappelle qu'on peut déguster votre cuisine dans votre restaurant. La Cour des Sens à Saint-Tré, c'est en Meurthe-et-Moselle. Hein.
Mais oui.
Merci Benjamin.
20 minutes de la place Tan.
Et voilà, on a toutes les infos. Alors, et pour tous les amateurs de Mirabelle, n'hésitez pas à passer par la Lorraine d'ici la fin du mois. Plusieurs fêtes sont organisées pour mettre bien sûr en valeur la petite prune un petit peu partout sur le territoire. C'est facile à trouver.
Merci beaucoup Marion. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Avec plaisir. Et que diriez-vous de partir en Camargue pour goûter le bœuf à l'estouffade?
Eh bien, écoutez Marion, je vous suis bien volontiers. À la semaine prochaine Marion.
À la semaine prochaine.
18h, 20h.
Thierry Dagiral sur Europe 1.
À suivre dans votre grand journal, Thierry.
Dans 2 minutes, le journal, on va revenir sur cette centaine de migrants dans l'expectative au large de Lampedusa. 19h15, on sera en ligne avec le professeur André Grimaldi. Il est l'un des signataires de la tribune publiée ce matin dans le JDD, réclamant la relocalisation de la production de médicaments en Europe pour éviter la pénurie. 19h30, notre débat d'actu ce soir entre l'essayiste Barbara Lefebvre et le rédacteur en chef de la revue Regard, Pierre Jacquemin. Au sommaire, la rentrée d'Emmanuel Macron et les dossiers chauds qui attendent l'exécutif.
C'est Europe 1, bienvenue, il est 19h. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h, Thierry Dagirel.
L'essentiel de l'information avec Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Une situation de plus en plus tendue à bord du navire de l'ONG Open Arms au large de Lampedusa. Certains des migrants recueillis par les humanitaires se sont jetés à l'eau aujourd'hui, espérant gagner la côte à la nage. Un collectif de médecins hospitaliers tire le signal d'alarme sur les pénuries de médicaments. Il appelle à une meilleure gestion des stocks et une relocalisation de la production. Explication dans ce journal. On jouait cet après-midi en Ligue 1, la suite de la deuxième journée de championnat. La rencontre Reims-Strasbourg vient de s'achever. Quel est le score, Damien Ardoit, finalement?
Pas de but dans cette rencontre entre Reims et Strasbourg. Score final 0-0.
Merci Damien. On vous retrouve bien sûr dans le journal des sports de Marie Guida à la fin de cette édition. Plus tôt dans l'après-midi, Saint-Etienne et Brest se sont séparés sur le score de 1 partout. Et puis ce soir, bien sûr, Rennes reçoit le Paris Saint-Germain et ce sera toujours sans Neymar.
Europe 1.
Une situation explosive à bord du navire Open Arms, ce bateau de l'ONG espagnole qui a recueilli des migrants en Méditerranée.
Effectivement, situation explosive, ce sont les mots du capitaine du navire qui avait mis en garde dès vendredi contre le désespoir et la colère de cette centaine de migrants toujours en attente d'un accueil sur l'île de Lampedusa en Italie. Certains pays européens, on le sait, dont la France, se sont engagés à accueillir ces migrants. Mais à bord, eh bien, ces derniers perdent patience. Blandine Hugonnet.
Les images sont terribles. Dans un ultime geste de désespoir, cinq migrants se jettent à la mer depuis le ponton de l'Open Arms. Mais quelques minutes après, ils sont ramenés sur le navire par des sauveteurs. À bord, crise de nerfs, rixes, épuisement, la situation est insoutenable. Mais pour Matteo Salvini, tout ça n'est que mensonge.
13 malades, quand on a débarqué, ont été auscultés. Et les médecins ont dit, en réalité, ils ne sont pas malades. La demi-douzaine de mineurs débarqués a dit, et nous, en fait, on est majeurs. Il y a eu aussi une inspection médicale à bord et ils ont dit qu'il n'y a aucune urgence sanitaire à bord. Alors si je dois finir en prison parce que j'ai défendu les frontières et la sécurité de mon pays, je le ferai la tête haute.
Ce dimanche, l'Espagne a proposé d'accueillir l'Open Arms dans un de ses ports. Une petite victoire pour le ministre de l'Intérieur anti-migrant qui jubile. Sauf que pour le navire espagnol, vu la situation à bord, impossible de reprendre la mer pendant une semaine. De son côté, la France s'est dit prête à prendre en charge 40 personnes, à condition que ces migrants remplissent les critères pour obtenir le statut de réfugié. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
Dans le sud de l'Italie, Simon Gauthier, disparu depuis 9 jours maintenant, n'a toujours pas été localisé par les sauveteurs malgré les renforts arrivés dans la journée. Ses proches sur place ne perdent toutefois pas espoir. L'État islamique revendique l'attentat kamikaze qui a fait 63 morts et plus de 180 blessés lors d'un mariage à Kaboul en Afghanistan. Une tuerie qui survient alors que les talibans s'apprêtent à négocier un accord de paix avec les États-Unis. Hong Kong, démonstration de force plutôt réussie aujourd'hui pour l'opposition au régime pro-chinois, même si le front civil pour les droits de l'homme n'a sans doute pas mobilisé le million de manifestants espérés. Ils étaient encore nombreux dans les rues à défier les autorités, aujourd'hui sous une pluie battante et sans violence.
À présent, ce cri d'alarme sur la question des pénuries de médicaments, des médecins hospitaliers publient une tribune aujourd'hui.
Un appel relayé par nos confrères du Journal du Dimanche. Un phénomène qui inquiète en fait le monde médical, notamment à l'hôpital. Alors cela ne concerne pas les nouveautés thérapeutiques ou les traitements expérimentaux, mais bien des médicaments de tous les jours. Et donc ce collectif de médecins, Jeanne Bergaoui, demande en fait une meilleure gestion des stocks, hein, c'est bien ça?
Oui, parce qu'il faut parfois faire la tournée des pharmacies pour trouver de simples antibiotiques, des vaccins, des corticoïdes ou encore des anticancéreux. Une pénurie qui touche quasiment toutes les pharmacies du pays. À Paris, dans son officine, Virginie y est confrontée au quotidien.
Ça devient de plus en plus courant et tout au long de l'année, et pour des médicaments quand même qui sont assez classiques, dont on ne devrait pas manquer. Donc soit on change de médicament avec l'accord du médecin, soit on essaye de donner des génériques si c'est disponible, on essaye d'adapter les dosages, vous voyez. Faire en sorte que le patient n'arrête pas son traitement, parce que ça c'est un peu embêtant. Le patient, il est habitué à prendre son médicament. C'est angoissant, c'est stressant, ça fait perdre la confiance.
C'est en fait toute la chaîne du médicament qui est à flux tendu. D'abord, les laboratoires pharmaceutiques délocalisent en Chine ou en Inde la fabrication des molécules. 80% des principes actifs sont aujourd'hui fabriqués hors de l'Union européenne. Ensuite, les laboratoires sous-traitent la plupart du temps le façonnage, c'est-à-dire la mise en comprimé ou en ampoule. En cas de problème, dans une usine fournissant tout le marché mondial, le système se bloque et crée des pénuries. Et puis, il y a aussi la distribution avec l'intermédiaire entre le laboratoire et votre pharmacie, celui qu'on appelle le grossiste répartiteur. Aujourd'hui, les grossistes préfèrent vendre à d'autres pays européens. En Italie ou en Allemagne, certains médicaments valent 2 à 3 fois plus cher qu'ici. Cela crée donc des pénuries chez nous et c'est justement pour éviter cela que ces médecins hospitaliers publient leur tribune. Pour amortir ces problèmes d'approvisionnement, ils réclament plusieurs mois de stock, mais ils appellent surtout à la relocalisation de la production des médicaments en Europe.
Merci Jeanne Bergaoui.
Et puis restez à l'écoute, hein, puisqu'à 19h15, mon invité sera le professeur André Grimaldi de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est l'un des signataires de cette tribune.
À Levallois-Perret, une centaine de personnes habitant au-dessus du marché couvert devront être relogées ce soir. L'incendie qui a ravagé la nuit dernière les commerces a provoqué d'importants dégâts matériels. On ne connaît pas encore l'origine du feu. Une nouvelle affaire de maire agressée par l'un de ses administrés. Cela s'est passé lors de la fête du 15 août dans la petite commune de Saint-Alban-les-Eaux dans le département de la Loire. L'élu qui tentait de calmer un automobiliste en colère à cause d'une banale interdiction de circuler a violemment été frappé au visage. Il a décidé de porter plainte.
C'est un constat. Les études supérieures pour les étudiants français coûtent tous les ans, ça c'est vrai, de plus en plus cher.
Oui, effectivement. Et c'est le résultat de la 17e enquête annuelle de la FAGE, la Fédération Générale Étudiante. Le détail avec Maud Descamps.
Pour un étudiant qui entre pour la première fois à l'université cette année, il faudra débourser en moyenne 2 285 €. C'est 45 euros de plus que l'an dernier. Un budget qui comprend à la fois les frais de vie courante, nourriture, transport, logement, mais aussi les frais de rentrée inscription à l'université ou encore mutuelle santé. Le premier poste de dépense d'un étudiant reste le logement. Plus de 50% de son budget total, un poste de dépense en constante augmentation, note la FAGE, notamment en province où le prix des loyers a augmenté de 3,5% cette année. Autre gros poste de dépense, l'alimentation et les vêtements, 296 euros en moyenne, avec une hausse des prix des repas étudiants, puisqu'à partir du 1er septembre, le ticket repas au restaurant universitaire augmentera de 5 centimes. Outre le logement et l'alimentation, l'achat de matériel pédagogique va également gréver le budget des étudiants avec une hausse de 5%, soit un budget de 250 euros en moyenne. Et enfin, autre augmentation pour cette rentrée universitaire 2019, les complémentaires santé, plus 2,5% par rapport à l'an dernier.
Maud Descamps. Après Didier Guillaume et Jacqueline Gourault aperçus dans les arènes d'une corrida à Bayonne jeudi dernier, c'est une autre ministre du gouvernement, Geneviève Darrieussecq, qui a été assistée hier à une corrida à Dax. Et comme pour ses deux collègues, sa photo a circulé sur les réseaux sociaux, entraînant de nombreux commentaires. Une présence vécue comme une provocation pour les défenseurs de la cause animale, notamment Brigitte Gauthière, cofondatrice de l'association L214.
On peut se poser la question de la position du gouvernement vis-à-vis de la corrida, alors même que trois quarts des Français y sont opposés. Là, de voir le défilé de trois ministres du gouvernement présents dans des corridas, les voir cautionner la cruauté sur les animaux. Alors, ce n'est pas les associations de défense des animaux qui disent que la corrida, c'est une cruauté faite aux animaux, c'est le code pénal qui le dit. Donc, il y a un mépris profond de la question animale de la part de ce gouvernement.
Des propos recueillis par Victor Dolande.
On marque une pause et puis on va partir pour Lourdes pour la fin du pèlerinage du 15 août. À tout de suite.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Europe 1, 19h09, le journal de la suite, Lionel Gougelot, Thierry Dagiral.
Direction Lourdes où les pèlerins étaient nombreux ces derniers jours en ce week-end prolongé du 15 août.
Ouais, le pèlerinage national qui a connu une fréquentation en hausse de 15%, notamment pour les malades et les bénévoles. Rien que pour la journée du 15 août, plus de 25 000 personnes se sont déplacées jusqu'à la grotte. Reportage de notre correspondant Benjamin Péter.
Il a décidé de se mettre au service des autres. Pierre vient à Lourdes pour la première fois. Il a choisi d'être hospitalier. Il accompagne un malade, Dominique, pendant toute la semaine.
Ça fait, je crois, un an et demi, deux ans, je me dis, ah, ce serait quand même chouette d'aller découvrir ce que c'est Lourdes, qu'est-ce que les gens viennent y trouver, pourquoi ils reviennent super heureux de ce qu'ils ont vécu là-bas. Je suis brancardier, donc j'accompagne une personne qui est en fauteuil roulant. C'est aussi une joie de rencontrer des personnes malades, des personnes qui sont totalement différentes de nous. On apprend à se connaître un peu, voilà, on partage vraiment quelque chose avec eux.
Heureux vous les pauvres, cette phrase de l'évangile de Matthieu inscrite sur le fronton de la basilique résume l'attention qui est portée cette année aux plus fragile. Thierry participe au Pélé Mosaïque qui permet à des personnes en situation de précarité de venir à Lourdes. Lui qui a connu les galères, la rue, s'offre ici une parenthèse.
C'est une concentration d'amis, on va dire ça comme ça. On s'est retrouvé plein de gens, une grosse, une énorme famille. C'est génial comme rassemblement. Et ici, à la limite, tout le monde se dit bonjour. C'est ça qui est top.
Et ce pèlerinage mosaïque qui existe depuis 11 ans a permis cette année à plus de 300 personnes, des familles principalement, de participer à cette fête de l'Assomption. Des personnes qui viennent toutes ici retrouver une certaine forme de sérénité. À Lourdes, Benjamin Péter, Europe 1.
Voilà, merci. C'était le journal de Lionel Gougeot. Bonne soirée à vous, Lionel.
Bonne soirée, Thierry. À bientôt.
La météo à présent, Valérie Darmon. Alors attention, 12 départements restent en vigilance orange ce soir, de la Loire à l'Alsace, avec des risques d'orages très violents. Des orages violents, attention, en ce moment même, dans le Rhône, restez bien sûr prudents, vigilants si vous êtes sur la route. Le ciel de cette semaine va-t-il rester aussi gris qu'aujourd'hui, Valérie ?
Eh bien, il est très orageux demain, lundi et mardi, au sud et à l'est des Pyrénées, aux Alpes, à l'Alsace, en vigilance orange pour certains de leurs départements, comme vous le savez. Et partout ailleurs, le temps sera plus calme, sous un ciel variable, avec un risque d'averse et un peu de vent en bord de Manche. Mais on se dirige tout de même vers l'amélioration. L'été n'est pas terminé. Et à partir de mercredi, nous repasserons sous l'influence de l'anticyclone des Açores. Donc, si vous êtes dans le sud, vous retrouverez le soleil. En revanche, les nuages seront toujours plus abondants des côtes de la Manche, au nord de la Seine, à Rhône-Alpes, à cause d'une succession de perturbations circulant de la Scandinavie à l'Allemagne. Les températures sont à peine de saison jusqu'à jeudi. Il fera frais le matin avec 8 à 16 degrés en général. Et l'après-midi, on attend une moyenne de 22 degrés au nord, 26 dans le sud. Et on est 2 degrés en moyenne en dessous des normales de saison.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
avec Marie Guida. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
On commence avec le football et la Ligue 1.
Oui, la fin de la deuxième journée. Un match vient de se terminer entre Reims et Strasbourg et les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, Damien Ardoin.
Oui, mission accomplie pour Strasbourg qui avance son barrage d'Europa League face à Francfort et visiblement venu chercher le point du match nul ici à Reims. 0-0, score final malgré quelques belles occasions des deux côtés. Les plus belles, Djikou pour Strasbourg, une tête claquée sur la ligne par le gardien Rajkovic. Et pour Reims, Houdin à la dernière seconde, une demi-volée puissante à quelques centimètres du poteau. Reims n'a pas réussi à faire plier la défense alsacienne. Il manque clairement un attaquant pour les Champenois. Deuxième match nul en revanche en deux journées pour Strasbourg en championnat. 0-0, c'est donc le score final entre Reims et Strasbourg.
Merci Damien Ardoin. Reims pour Europe 1. Cet après-midi, Saint-Étienne a été accroché à domicile un partout contre Brest.
Et ce soir, le Paris Saint-Germain sans Neymar défiera Rennes pour la quatrième fois cette année, hein, Marie.
Oui, deux clubs inséparables ces derniers mois. Une fois pendant la saison de la Ligue 1, en finale de la Coupe de France, gagnée par les Bretons un peu à la surprise générale dans un scénario un peu fou. Et enfin, début août, au Trophée des Champions en Chine, un trophée remporté par les Parisiens. Mais depuis, eh bien, beaucoup de choses ont changé, Julien Froment.
Oui, le mercato est passé par là, il a remodelé les effectifs des deux équipes et clairement, c'est Rennes qui a le plus souffert. Ismaël Assar, Hatem Ben Arfa, Benjamin André, Rami Ben Sebaini, bref, c'est une bonne partie de l'équipe type de l'an passé qui n'est plus là. Et le problème, eh bien, c'est que Rennes n'a pas encore tout à fait compensé ses nombreux départs, alors que du côté du Paris Saint-Germain, eh bien, on a misé sur la stabilité en faisant quelques petites retouches. Les Espagnols Sarabia et Herrera, le défenseur français Abdou Diallo sont arrivés, surtout le Sénégalais Idrissa Gueye, ce milieu défensif tant attendu par le PSG depuis des années. Il devrait d'ailleurs faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs ce soir. Vous l'aurez compris, le match s'annonce déséquilibré sur le papier, d'autant plus que Paris est comme chez lui en Bretagne. Il n'a plus perdu au Roazhon Park depuis 8 ans.
Julien Froment, envoyé spécial à Rennes pour Europe 1. Coup d'envoi à 21h, un match à suivre sur Europe 1 avec Lionel Rousseau à partir de 20h.
On regarde avec vous Marie le reste de l'actualité sportive.
Oui, avec hier soir à Nice en rugby pour son premier match de préparation avant la Coupe du Monde qui débute le 20 septembre prochain. Et avec 5 essais inscrits, le 15 de France s'est imposé 32-3 face aux Écossais. Le deuxième match de préparation aura lieu samedi prochain à 14h, toujours contre l'Écosse mais à Édimbourg cette fois. Et un mot d'athlétisme pour terminer au meeting de Birmingham. Revenue cette année à la compétition après un congé maternité, Mélina Robert-Michon n'a toujours pas décroché son ticket pour les Mondiaux de Doha. Elle a terminé cet après-midi seulement 9e du concours de lancer de disque, mais elle aura encore une chance samedi prochain au meeting de Paris à Charletti.
Merci Marie, c'était le journal des sports présenté par Marie Guida.
Il est 19h15, restez avec nous. Votre grand journal du soir revient dans un court instant avec vous, Thierry Dagirel.
Et je vais recevoir le professeur André Grimaldi. Il est médecin à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est l'un des signataires de cette tribune parue dans le JDD ce matin. Face à la pénurie de médicaments, il faut vite relocaliser la production en Europe, dit-il. A tout de suite.
Thierry Dagirel sur Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. On revient ce soir sur la pénurie de médicaments en pharmacie comme à l'hôpital. Cela met en danger des malades. 26 médecins demandent dans le JDD à ce que la production des principes actifs revienne en France. Vous recevez Thierry, l'un d'entre eux, le professeur André Grimaldi, diabétologue à la Pitié-Salpêtrière.
Bonsoir professeur Grimaldi.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce soir. On va prendre un exemple très concret. À l'hôpital Cochin, à Paris, le stock d'améthycine est épuisé. C'est un médicament qui prévient la récidive de cancer de la vessie. La conséquence, c'est tout bonnement que les patients doivent attendre. Donc, avec cette pénurie de médicaments, c'est la vie des malades qui est en jeu.
Oui, absolument. Des anticancéreux, comme celui que vous venez de citer, mais aussi des anti-inflammatoires aussi nécessaire que le corsensil qu'on utilise dans les greffes d'organes, dans les maladies inflammatoires comme la polyarthrite, les maladies inflammatoires des artères. Et ces ruptures de traitement ont des conséquences, pas seulement sur la qualité de vie, mais sur le risque, une perte de chance pour les malades, et pour dire les choses brutalement, une augmentation de décès.
Ouais.
Alors évidemment, comme c'est des maladies graves, on dit le malade il est mort de sa maladie, mais enfin il est mort d'une rupture de traitement.
L'Institut national du cancer dit qu'il y a une quarantaine de médicaments essentiels en cancérologie qui seraient manquants. Vous confirmez ?
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Il y a eu, dans l'année précédente, plus de 800 ruptures de médicaments. Alors, parmi ces médicaments, leurs caractéristiques, c'est des médicaments essentiels, parce que les migrants pas essentiels, ben, on les remplace ou on les remplace pas, c'est pas très grave.
Bien sûr.
Des médicaments essentiels, quoi, hein, avec un risque vital. Et c'est des médicaments peu chers, c'est des médicaments anciens, mais très utiles. Donc, la caractéristique de ces médicaments, c'est qu'ils ne rapportent plus grand-chose à l'industrie. On n'a jamais de pénurie pour les nouveaux médicaments très chers. On n'a que des pénuries pour ces anciens médicaments qui sont tombés dans le domaine public, ouais. Qui ne sont plus proprement parlé rentables. Et alors, le problème, c'est que l'industrie pharmaceutique, qui a été à l'origine de ces médicaments, les sous-traite dans une chaîne de production qui existe pour l'ensemble de la production industrielle. Les principes actifs sont produits en Inde et en Chine. Et puis ensuite, le façonnage, c'est-à-dire la fabrication de comprimés, d'ampoules, de sachets, est fabriqué par des sous-traitants, hein, avec qui eux cherchent la rentabilité maximum. Donc, les stocks qui sont limites, il y a peu de stocks, c'est un flux tendu, ce qui fait que quand il y a un problème dans un niveau de la chaîne, eh ben, tout s'arrête. Tant que tous les pays sont demandeurs, et à ce moment-là, les industriels ils vont plus offrant.
Ça veut dire...
On va revenir à ces vieux médicaments, mais trois fois plus cher.
Vous nous dites ce soir que finalement, c'est à cause de cette mondialisation, cette pénurie de médicaments.
C'est à cause du traitement du médicament comme si c'était un produit électroménager. Et pas un produit de santé dont certains sont absolument vitaux, et qui sont un bien commun qui doivent être gérés par l'État pour assurer la qualité et la sécurité.
Il faut bien dire, pardonnez-moi, professeur, soir, que ça touche les hôpitaux. Ça touche aussi les pharmacies, hein ?
Ah oui, bien sûr, c'est pas un problème spécifique aux hôpitaux. Hein, et c'est pas un problème spécifique à la France. Les USA sont également concernés. Les cancérologues américains étaient tellement outrés de cette situation que 500 établissements américains ont décidé de créer une entreprise non-profit. C'est une entreprise qui ne cherche pas la rentabilité pour avoir ces médicaments, encore une fois, tombés dans le domaine public, hein, génériqués, mais indispensables. Alors ça, c'est une des mesures, mais une mesure de long terme. Il faudrait que l'Europe fasse pareil. Et puis, il y a une mesure de court terme qui est, il faut qu'il y ait des stocks suffisants qui permettent de gérer les difficultés de telle ou telle production, à un moment donné, au point de vue qualité ou autre. Et il faut que le responsable soit l'entreprise qui a mis le médicament sur le marché, pas celle qui seulement a fait les profits puis ensuite a trouvé des sous-traitants. Ouais. Hein, lesquels sous-traitants, eux, travaillent à flux tendu, comme je vous le disais, sont souvent des petites entreprises.
Dans cette tribune que vous avez co-signée donc, ce matin dans le journal du dimanche, vous dites qu'il faut relocaliser la production des principes actifs en Europe. C'était d'ailleurs le cas il y a encore 15 ans, hein.
Mais oui, absolument. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous évoquez la mondialisation, c'est-à-dire où un iPhone est produit dans 8 ou 10 pays, tout ça est assemblé, etc. C'est alors qu'avant, l'entreprise pharmaceutique était responsable de l'ensemble. Il y avait une unité. Alors du coup, là, c'est de toute façon de sous-traitants, depuis le produit actif jusqu'au façonnage terminal, bon, crée qu'il y a des ruptures à différents niveaux. Donc il faut, oui, absolument que des principes actifs soient relocalisés en Europe, qu'on assure la sécurité pour les médicaments essentiels, pour les médicaments vitaux, pas pour tous les médicaments.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre collègue, le professeur Jean-Paul Vernant, préconise donc la constitution d'un stock de médicaments essentiels. Comment concrètement on s'y prend ?
Ben, on s'y prend. Il s'agit que l'entreprise pharmaceutique qui a été à l'origine du médicament ait la responsabilité. Et si elle n'assume pas cette responsabilité, qu'elle ait une pénalité majeure. Bon. Et là, alors après, il y a le problème de prix. Mais on ne peut pas dire les médicaments arrivent au plus offrant. Parce que cette logique-là, ce sera une inflation galopante des prix. Donc ça veut dire une chose simple, c'est que dans la santé, parce que c'est la santé et que la vie des gens est en jeu, l'État doit intervenir. On ne peut pas laisser l'intérêt privé gérer l'ensemble de la santé. L'intérêt privé peut gérer une créativité, etc. etc. Mais en tout cas, assurer la qualité, la sécurité, c'est la charge de l'État.
Et justement,
on en avait parlé, oui,
la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle entend ce sujet.
Écoutez, on avait parlé avec elle quand on a rencontré avec Jean-Paul Vernant, il y a maintenant au début de son mandat. Elle était très sensible. Elle est elle-même hématologue, c'est-à-dire cancérologue, quelque part. Elle connaît bien le sujet, puis elle était présidente de l'INCa. Donc elle connaît le sujet. Ceci dit, c'est entre un problème industriel derrière. Donc il faut affronter une logique. Alors il y a une logique qui était toute entreprise, pour être bien gérée, doit être privée, doit chercher le profit. Ben, en santé, il y a une limite.
Donc ce soir, vous lui lancez un appel clairement à la ministre. Oui. Hein. Il y a urgence, vous dites.
Oui. Il y a urgence, donc ça c'est le problème des stocks. Il y a urgence, parce qu'on ne peut pas seulement dire qu'il faut mieux gérer la pénurie. Parce que là on a pris plein de mesures pour mieux gérer la pénurie. Il faut prévenir la pénurie. Et puis deux, il y a une décision de long terme, qui est une décision politique, qui est, il nous faut une entreprise nationale non-profit, qu'elle soit étatisée ou pas étatisée, c'est pas le sujet, il y a des non-profits de plusieurs États européens, pour ces médicaments génériques indispensables pour assurer que l'Europe, et notamment la France, est régulièrement fournie.
André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière. Un grand merci à vous, professeur.
Merci.
Europe 1. Il est 19h24, dans un instant votre débat d'actu avec ce soir l'essayiste Barbara Lefèvre et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard.
Alors on va parler de la rentrée d'Emmanuel Macron, mais aussi des dossiers chauds qui attendent la majorité, notamment la PMA et la réforme des lycées. A tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagiral, avec à 19h50, retour sur Actu. Ce soir, le jour où Karl Lagerfeld est mort, c'était le 19 février dernier, on va parler des secrets du couturier avec Raphaël Baquet. Mais d'abord, place au débat d'Actu, Thierry.
Deux débatteurs à mes côtés en studio ce soir sur Europe 1. Barbara Lefèvre, enseignante et essayiste, dernier ouvrage paru chez Albin Michel, c'est Ça la France. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Je voudrais qu'on commence sur la reprise d'Emmanuel Macron par petites touches. On l'a vu hier soir, commémorant la libération de Bormes-les-Mimosas, appelant les Français à se réconcilier. Clairement, ces mois de manifestation de Gilets jaunes ont laissé des traces. Le président veut tourner la page, Barbara Lefèvre.
Oui, il essaie effectivement d'amorcer une deuxième partie de quinquennat en se présentant comme étant plus humble et surtout beaucoup plus proche des Français. Alors après, c'est des Français triés sur le volet. Hein. Les images d'hier, c'était des images exclusivement filmées par les caméras de l'Élysée. Donc, ça reste quand même très contrôlé.
Donc, on peut penser avec des militants choisis pour venir.
Ah bah oui, c'est clair. De toute façon, il y avait quelques gilets jaunes, mais des gilets jaunes version rond-point, hein, plutôt sympathique et bon enfant, qui étaient quand même tenus à l'écart de façon assez stricte. Donc oui, bon, après... cette séquence-là n'est pas une séquence politique, c'est une séquence de com', elle est intéressante, il était bronzé, il a bu la nisette, mais après, n'est pas Chirac qui veut. Hein.
Pierre Jacquemin.
Ouais, j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait l'intention de changer ou qu'il ait décidé de changer de trajectoire ni même de méthode. D'ailleurs, il appelle les Français à se réconcilier. On a du mal à imaginer qu'il arrive à réconcilier les Français quand justement il essaie d'opposer les travailleurs contre les chômeurs, les jeunes contre les vieux parce que c'est les jeunes qui payent plus les retraites des vieux, presque maintenant les migrants contre les Français, enfin les habitants en France, les salariés du privé avec les salariés du public sur la réforme des retraites. Enfin bon, voilà, je vois pas très bien comment justement on peut imaginer qu'Emmanuel Macron revient de ses vacances avec ça y est, je suis un nouvel homme, j'ai changé de stratégie, j'ai une nouvelle carapace. Humaine, avec une sensibilité qui serait différente. Non, je pense, au contraire, qu'il revient en force avec une détermination absolue à passer contre l'avis toujours des gens qui s'expriment dans la rue, des gens qui militent pour les droits des migrants, des gens qui militent pour une réforme plus juste de l'éducation nationale. Et donc, je pense que malheureusement, ce qui est à craindre à la rentrée, c'est un renforcement justement
de la
grogne.
Oui, je pense que la grogne est là. On l'a vu d'ailleurs tout l'été, hein, avec les agriculteurs qui manifestaient et qui ont saccagé des permanences de députés de La République En Marche contre le CETA, Barbara Lefèvre.
Oui, et d'ailleurs, ce couple Macron-Sarkozy qu'on a vu...
il y a deux jours, trois jours, c'est jeudi, oui.
C'est assez révélateur, justement, de l'identité politique d'Emmanuel Macron. Et Régis Debray parle bien de ce président gallo-ricain qui est l'incarnation de cette société qu'on est en train de devenir, c'est-à-dire une société complètement américanisée. Et je trouve que cette amitié entre Nicolas Sarkozy, qui a été quand même le plus américain de nos présidents, je ne parle pas dans sa politique étrangère, mais je parle dans sa façon d'être, dans sa façon de concevoir la société, une société beaucoup plus du contrat, de la gouvernance, de l'individualisme, mais poussée à son extrême le plus parfois détestable. Ben c'est aussi un petit peu cette image-là qu'Emmanuel Macron aime. Et justement, c'est assez habile. Il a Édouard Philippe. D'un côté, qui est quand même, on va dire, une espèce de droite libérale, ouverte, etc. Et puis de l'autre côté, maintenant, il a Nicolas Sarkozy qui se veut être la droite gaulliste. Alors, on va mettre beaucoup de guillemets à ça. Et qui est une droite populaire, parce que quand même, Nicolas Sarkozy reste très populaire chez les électeurs LR. Donc, c'est très habile. En même temps, ça montre bien aussi quelle est l'identité politique d'Emmanuel Macron. C'est une identité plutôt de droite. Et sur les questions sociétales, là aussi, il est très américain, c'est son côté communautariste et c'est aussi ce côté un peu libertaire comme peuvent l'être les actuels démocrates américains. Donc c'est assez inquiétant.
Pierre Jacquemin, qu'est-ce qui se joue derrière ces images qu'on a vues en effet entre l'ancien président Sarkozy et le nouveau ?
Je suis assez d'accord avec une analyse du Monde qui expliquait que finalement Nicolas Sarkozy avait tout intérêt justement à avoir un rapport assez de proximité avec l'actuel président de la République, parce que finalement, on a l'impression qu'il n'y a eu que deux quinquennats et que depuis Nicolas Sarkozy, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de quinquennat de François Hollande. Et comme les deux détestent le président Hollande, je pense qu'ils ont une forme de stratégie non dite, implicite, de cacher le quinquennat de François Hollande. Et puis, par ailleurs, bon, Nicolas Sarkozy ne se cache pas. Hein, il l'a écrit dans son livre Passion, qu'il a quand même de l'admiration pour Emmanuel Macron, son épouse, que Emmanuel Macron lui a permis un certain nombre de choses, des avantages qu'il a appréciés. Mais bon, c'est vrai que plus généralement, ça n'est pas qu'une relation institutionnelle ou une relation purement d'ordre d'ancien président de la République qui s'adresse à un ancien président de la République. Fondamentalement, je pense qu'il y a une véritable colonne vertébrale qui converge entre les deux. C'est-à-dire qu'intellectuellement, même politiquement, il y a plus de convergence que l'on imagine entre un Nicolas Sarkozy et un Emmanuel Macron qu'un Emmanuel Macron et un François Hollande. Et je pense que notamment sur la question de l'autorité, ce qu'on ne soupçonnait pas d'Emmanuel Macron, quelqu'un d'extrêmement autoritaire avec des lois qu'on a pu connaître, des lois liberticides, hein, je utilise le mot, c'est pas moi qui l'utilisais d'ailleurs, c'est les députés macronistes. Je pense à la loi asile-immigration, je pense à d'autres lois par la suite où on n'a pas parler de liberticide, je pense que ce côté autoritariste qu'on a vu chez Emmanuel Macron, on ne le pensait pas au début de son quinquennat. Et c'est vrai qu'en ça, il se rapproche, je pense, d'une présidence à la Nicolas Sarkozy.
Oui, après, moi je ne parlerai pas, concernant Emmanuel Macron, d'autorité. Parce que l'autorité, elle est légitime et elle est même normale. Un chef de l'État doit faire preuve d'autorité parce que c'est une autorité légitime. Par contre, en effet, l'autoritarisme, ça pose problème. Et d'ailleurs, on a vu quelques ministres qui nous semblaient être des piliers avec cette autorité sereine, etc., se transformer aussi dans des moments de crise avec des petits réflexes autoritaires. Je pense en particulier à Jean-Michel Blanquer, qui a quand même un petit peu étonné au moment du baccalauréat. Castaner, en même temps, il n'a pas d'autre choix que la comédie, hein, parce que sinon, le jeu de comédien, mais là-dessus, il est beaucoup moins... Il n'est pas vraiment premier prix de conservatoire comme l'est Emmanuel Macron. Hein.
Demain, Emmanuel Macron va recevoir Vladimir Poutine à Brégançon. La semaine prochaine, il y a le G7 à Biarritz. Est-ce que c'est une redéfinition des rôles qui se préparent à Macron, la diplomatie, l'international et à Édouard Philippe, le quotidien finalement en France?
Je pense que c'est une rentrée où effectivement Emmanuel Macron va essayer de se faire oublier le plus possible à l'échelle nationale. Donc tous les sujets qui vont être les sujets les plus brûlants de la rentrée, un sujet brûlant qu'on évoque assez peu, mais c'est quand même les comptes que Emmanuel Macron devra rendre aussi sur la question écolo. On l'a vu, hein, tous les incendies, pardon, je fais une digression, mais c'est vrai que les incendies, les records de température partout en France, dans le monde, l'Islande qui vient de commémorer le dernier...
Il y a les mots et il n'y a pas les actes.
Voilà, il n'y a pas les actes. Donc ça va être des choses sur lesquelles il va falloir quand même qu'il s'explique et qu'il rende des comptes. Donc oui, je pense qu'Emmanuel Macron va essayer de se faire oublier sur la scène nationale. Et effectivement, le G7 va lui permettre effectivement de briller à l'échelle internationale en vantant sans doute, comme il le fait à chaque fois, ses grandes caractéristiques d'homme politique engagé sur la question écolo. Et effectivement, à Édouard Philippe d'assumer, comme il l'a plutôt bien fait, même si j'entends déjà les gens de gauche me dire « mais non, il n'a pas bien fait », mais c'est vrai qu'il a quand même assumé une politique qui était une politique de droite. C'est le seul à avoir assumé une politique de droite. Emmanuel Macron refuse d'assumer cette politique de droite. Mais oui, il mène une politique de droite et Édouard Philippe le fait.
Un dernier point avant de marquer une pause pour faire réagir. L'enseignante que vous êtes, Barbara Lefèvre, dans le JDD ce matin, on apprenait que Brigitte Macron allait redonner des cours de littérature à des adultes non qualifiés à Clichy-sous-Bois, près de Paris. Cette fameuse école de la seconde chance, c'est une bonne chose de relancer cette idée?
Non, mais des écoles de la seconde chance, il y en a déjà beaucoup. Hein,
et que la Première Dame s'implique,
ah,
précisément.
Ah oui, que la Première Dame s'implique, bon, c'est bien, oui.
Le symbole est fort.
C'est une enseignante. Je pense qu'effectivement, quand on a été un enseignant ou une enseignante, on l'est jusqu'à la fin de ses jours.
Hein. C'est utile.
C'est une mission et c'est une vocation. C'est utile qu'elle s'implique, oui. Après, est-ce que c'est utile qu'elle s'implique dans une école de la seconde chance? Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était aussi très impliquée sur les questions des enfants avec des troubles autistiques. Et je pense que de ce point de vue, il y aurait beaucoup à faire, notamment sur l'inclusion beaucoup plus massive des élèves avec des troubles du spectre autistique. Et moi, j'aurais bien aimé que Mme Macron s'implique aussi beaucoup sur cette question de l'inclusion des élèves avec des troubles autistiques à l'école ordinaire.
C'est dit. Restez avec nous. Le débat d'actu continue dans un instant avec Barbara Lefèvre et Pierre Jacquemin. On va parler des dossiers chauds qui attendent l'exécutif en cette rentrée politique, notamment celui de la PMA. Ne bougez pas, on revient.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Europe 1, 19h35, vous écoutez votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral, et la suite du débat d'actu avec l'enseignante et essayiste Barbara Lefèvre et le rédacteur en chef de la revue Regard, Pierre Jacquemin.
Alors, on a parlé de la rentrée d'Emmanuel Macron en première partie. On va s'intéresser maintenant au dossier chaud de cette rentrée, notamment celui de la PMA pour toutes, projet de loi qui sera examiné à partir du 24 septembre. La Manif pour tous appelle déjà à manifester le 6 octobre, Barbara Lefèvre.
Oui, mais ce n'est pas que la Manif pour tous. Hein. Il y a aussi d'autres mouvements associatifs qui veulent s'exprimer sur ces sujets, qui ne sont d'ailleurs pas tous forcément d'accord. Hein. Vous avez plusieurs obédiences qui s'étaient mises d'accord à l'époque de la loi Taubira, qui là ont des points de vue assez divergents, mais qui espèrent faire une manifestation unitaire. La question surtout, c'est la question du débat public. Parce qu'aujourd'hui, on nous sort des sondages pour nous expliquer que tous les Français sont d'accord sur
sondage
le principe.
Sondage IFOP, le dernier, ça date de juin dernier. 6 voilà. Français sur 10 sont favorables à la mesure.
Oui, mais ils sont favorables à la mesure, mais est-ce qu'on leur a véritablement expliqué les enjeux? Les enjeux en termes de filiation, les enjeux en termes de manipulation des embryons, les enjeux à long terme, parce que c'est comme tout, on nous a expliqué le mariage homosexuel, mais pas de PMA. Là, on nous explique PMA, mais jamais de GPA, et puis absolument jamais de manipulation des embryons, absolument pas de libre concurrence dans la gestion des donneurs, etc. En réalité, on voit bien qu'il va y avoir un marché de la reproduction en laboratoire qui va s'ouvrir.
Passer ensuite.
Mais bien sûr, parce qu'on est dans une économie ouverte, de mercantiliste à fond, on est dans la marchandisation des corps, et on veut penser que cette PMA à la française, on va réussir à en faire une espèce de petite entreprise nationale qui ne sera pas du tout soumise à la loi du marché. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on va avoir un marché de la reproduction en laboratoire et que c'est extrêmement grave.
Pierre Jacquemin.
D'abord, on n'en est pas encore à l'étape du marché. On est dans un système français qui justement justifie une éthique quand même médicale et qui est quand même tout à fait encadrée. On ne parle pas encore de GPA et c'est ce qui m'effraie dans les arguments que j'entends justement de la Manif pour tous et toutes les associations qui vont participer à ces mobilisations. On va reconnaître, on va encore vivre ces années tragiques, ces mois tragiques de mobilisation contre le mariage pour tous, alors qu'il est question de droit, il est question de sujets, enfin, et d'enfants qui vivent des situations totalement ubuesques sur un plan juridique. Il y a 14 pays aujourd'hui à l'échelle européenne qui permettent ouvrent le droit à la PMA à des enfants et qui arrivent en France du coup sans droit, sans reconnaissance légale.
Voilà, c'est ça le libre marché,
c'est la PMA.
La libre concurrence. Ben moi, je trouve
non,
ça
attendez,
inquiétant.
On parle pas, c'est pas une
question. Pour Pierre Jacquemin, ça permet de.
Parce que c'est pas parce que les voisins le font qu'on est obligé de le faire.
D'abord, ça régularise une situation et deux, ça permet à des couples de femmes, donc de même sexe, d'avoir des enfants dans des conditions qui sont des conditions encadrées et éthiques. Encore une fois, il n'est pas question de GPA. Là-dessus, on peut avoir un débat et il faudra un jour qu'il y ait un débat. Je pense qu'une des grosses erreurs de ce quinquennat, c'est de ne pas avoir commencé justement, sans doute, d'avoir mis très tôt dans l'agenda politique la question de la PMA. Et même erreur qu'avait fait d'ailleurs François Hollande. François Hollande aurait dû faire la PMA. Il aurait dû faire un package total parce qu'aujourd'hui, des situations de femmes qui sont mariées peinent aujourd'hui à adopter des enfants ou avoir recours à une PMA puisque c'est interdit en France. Donc tout ça est totalement ubuesque en fait. Et par ailleurs, c'est encore une fois, c'est une promesse du président aussi. Donc c'est plus que la question des sondages. Là, on parle quand même d'une élection.
Oui, mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait
électeurs qui feraient la PMA.
Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un débat qui soit un débat aussi porté par des scientifiques et pas toujours des débats.
Il l'a été avec.
Oui, alors justement, les états généraux de la bioéthique, on a vu qu'en réalité, il y avait eu une opposition largement majoritaire à la PMA et aux propositions notamment de Monsieur Touraine, qui d'ailleurs ne concernait pas que la PMA, parce qu'il y avait aussi des considérations sur l'euthanasie qui étaient assez inquiétantes. Donc tout ça avait été mis dans le même paquet. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à cette question. Est-ce qu'on veut une fécondation anonyme ou est-ce qu'on accepte de dire qu'il y a des possibilités d'encadrer la PMA dans le cadre d'une fécondation sexuée, c'est-à-dire avec un père géniteur qui soit connu, qui soit connu de l'enfant et qui soit connu dès, peut-on dire, dès la fécondation, c'est-à-dire que le lien entre le père, le géniteur, même s'il n'est pas celui qui éduque les enfants, soit connu de cet enfant et du couple de mère qui l'élève. Ça, c'est une autre façon de voir la PMA, mais ce débat-là, il faut l'ouvrir. On ne peut pas dire, tout le monde est d'accord. On a vu même dernièrement ressortir une enquête Ipsos pour nous expliquer que tous les catholiques étaient aussi d'accord avec la PMA sur le principe. Tout le monde est d'accord avec ces sujets-là, mais si on les expose vraiment dans un débat public et qu'on ne nous dise pas on va revenir aux heures tragiques de la Manif pour tous. La Manif pour tous, il ne s'est rien passé bien grave.
Très rapidement, là où vous avez raison, c'est que ça n'est pas un sujet simple et ce n'est pas un sujet évident et il n'y a pas de dogme à avoir sur ces sujets-là. En revanche, la question de la PMA doit être acquise. Les sujets dont vous parlez, les questions de filiation, ça doit être le débat qui doit s'ouvrir justement. Vous avez raison. Est-ce qu'il faut permettre l'anonymat? Est-ce qu'il faut ouvrir l'anonymat? Est-ce qu'il faut l'interdire justement sur le don de sperme?
La parentalité extra-conjugale.
Oui, c'est des débats qu'il faut avoir parce que ça n'est pas simple. Maintenant, je pense que des enfants des sous-X, c'est logique qu'à un moment donné dans leur vie, ils aient envie de connaître leurs origines.
Donc ça, il faut le leur permettre.
La fin partielle justement de l'anonymat du don de sperme.
Elle ne doit pas être partielle, elle doit être totale.
Ouvre justement l'antériorité des gènes du père.
Donc voilà,
ça répond et pour partie quand même.
Projet de loi qui arrivera donc à partir du 24 septembre. Autre dossier, Barbara Lefebvre, qui vous concerne, vous enseignante. La réforme des lycées, la fin des filières, la création d'épreuves de contrôle continu du bac dès la première. Ça grogne beaucoup en ce moment. Hein.
Ah oui, alors ça, chez les enseignants, mais c'est pas que ça grogne en ce moment. Mmh. Ça grogne depuis très longtemps. Oui, bah c'est-à-dire que dès les ébauches de réformes, les enseignants, surtout les enseignants de lycée, n'étaient pas contre l'idée d'une réforme du baccalauréat. La question n'est pas là. Sauf que si on fait une réforme avec uniquement des objectifs en réalité, qui sont des objectifs économiques, c'est-à-dire on va faire du contrôle continu à 40% parce que ça coûte moins cher que d'organiser des et puis surtout, on va...
C'est juste un problème de coût pour vous ?
Non, c'est un problème de coût pour le ministère, oui.
Oui,
mais pour nous, les enseignants, non, ça fait longtemps que pour nous, ces questions-là sont des questions secondaires. Mais on voit bien qu'il y a une mobilisation générale. Des communiqués unitaires de tous les syndicats à l'éducation nationale, croyez-moi que c'est rare. Mmh. Et sur cette question du lycée, à chaque fois, il y a des communiqués unitaires. Il y a vraiment eu un bloc syndical avec des argumentaires extrêmement structurés. On n'a pas été sur les invectives habituelles. Des moyens, on veut des moyens. Ça, d'abord, il y en a marre d'entendre ça. Mmh. Il y a vraiment eu une tentative de discussion point par point d'un certain nombre de choses qui étaient aussi beaucoup centrées sur les élèves. Parce qu'on va demander aux élèves, quasiment dès la seconde, si ce n'est dès la fin de troisième, d'avoir déjà une vue quasiment autoroute jusqu'au post-bac. Mais comment voulez-vous qu'un gamin de 14-15 ans puisse déjà imaginer comment structurer ses modules d'enseignement parce qu'il s'imagine déjà quelles études il va faire ? On empêche vraiment aujourd'hui les élèves de se construire sur le long terme. Pour moi, cette réforme du lycée, elle est tout à fait annonciatrice de la société ultralibérale et hyper individualiste dans laquelle le système macronien veut nous plonger.
Pierre Jacquemin.
C'est vrai qu'il y a une mobilisation presque sans précédent qui se trame justement dans le milieu, dans la communauté éducative plus largement. D'ailleurs, avec une université d'été qui doit rassembler l'ensemble des enseignants primaires, lycées et même universitaires, qui doit avoir lieu, je crois, à la fin du mois d'août à la cartoucherie de Vincennes, qui donc semble vouloir dire quand même que les enseignants n'ont pas été écoutés. Et c'est vrai, moi j'ai assisté à une conférence de presse où ces enseignants-là, justement, pointaient le fait que leur mobilisation, même si évidemment ça n'empêche pas qu'ils ont aussi des revendications d'ordre salarial sur la question des retraites, évidemment, vont se mobiliser. Mais les syndicats lycéens, les syndicats de collégiens, de lycéens, disent aussi que leur solidarité avec ces enseignants-là, parce que justement, c'est de leur avenir dont il est question. Le fait qu'aujourd'hui les bacs professionnels aujourd'hui vont se voir étendre à des niveaux, c'est surréaliste. On supprime des disciplines dans les bâtiments, dans les systèmes scolaires. C'est quand même,
il y a une
ça
spécialité qui a été créée, qui est la spécialité biologie écologie, qui peut être intéressante quand on nous parle tellement de transition écologique. Ce sera réservé au lycée agricole. Voilà, donc ça, c'est les incohérences complètes. On nous parle toute la journée de la transition écologique, mais par contre, former les élèves à, justement, peut-être à ces métiers de demain que sont la biologie et tout ce qui est relatif à la biodiversité, à l'écologie, ça, c'est seulement dans les lycées agricoles. Et quand on sait dans les lycées agricoles, parfois, l'orientation de certains enseignants qui est plutôt fixée sur l'agriculture productiviste, on s'inquiète.
Merci à vous deux, Barbara Lefebvre. Votre dernier ouvrage, c'est Ça la France chez Albin Michel. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Merci à vous deux.
Merci
beaucoup.
Merci.
Europe 1, 19h43, dans un instant, retour sur Actu. Le jour où vous reviendrez, Thierry Dagiral, sur le 19 février dernier, la mort de Karl Lagerfeld, l'homme aux mille secrets.
Oui, on va en parler avec la journaliste Raphaël Baquet. Elle a mené une grosse enquête sur le personnage. Ce sera juste après les Beatles. Géraldine,
oui.
À tout de suite. Restez avec nous.
Il est 19h46, le jour où, tous les week-ends à cette heure-ci, dans votre grand journal du soir, Thierry Dagiral, on revient sur un événement qui a marqué l'actualité récente.
Et on va revenir ce soir sur une date. Nous sommes alors le mardi 19 février dernier et cette annonce sur l'antenne d'Europe 1.
Autre fait marquant de l'actualité de ce mardi, c'est la mort de Karl Lagerfeld. Il avait 85 ans, dont 36 passés à la tête de la maison Chanel, qu'il a maintenue au sommet par des défilés spectaculaires, transformant par exemple le Grand Palais en avion ou en forêt. Lagerfeld, dénicheur de talent, Vanessa Paradis, Inès de la Fressan, Claudia Schiffer, bref, un monument de la mode qui va manquer.
Bonsoir Raphaël Baquet.
Bonsoir.
Vous avez enquêté pendant 2 ans sur Karl Lagerfeld de Hambourg à New York pour Le Monde. Et puis vous avez écrit ce livre, hein, Kaiser Karl, aux éditions Albin Michel. Lagerfeld est mort à 85 ans. Même son âge est resté secret.
Oui, c'est un homme tout à fait particulier, à la fois mondialement connu et en même temps qui avait réussi à maintenir un certain nombre de secrets sur sa vie, y compris effectivement... Le plus simple, au fond, à trouver, sa date de naissance.
On est sûr qu'il avait 85 ans.
On est sûr qu'il avait 85 ans, puisque, en fait, je croyais que ça serait difficile de retrouver son âge véritable. Mais non, puisque, au fond, il n'a commencé à mentir sur son âge qu'à l'âge de 40 ans. Donc, il existe des quantités d'archives qui montrent la date de naissance réelle de Lagerfeld.
Il est mort d'un cancer.
Il est mort d'un cancer et le plus étonnant... D'un cancer du pancréas, mais le plus étonnant, c'est que d'une certaine façon, alors que dans son entourage et même de façon un peu plus large, on savait qu'il était malade, cette mort a pris de court, y compris ses employeurs, c'est-à-dire le patron d'LVMH, Bernard Arnault, et les patrons de Chanel, les frères Wertheimer.
Qui n'avaient pas évoqué la suite, qui n'avaient pas évoqué l'après-Garfield.
C'était un véritable tabou, c'est-à-dire que c'est tout à fait inédit, il avait des contrats à vie et sa succession était presque interdite, si vous voulez. Et effectivement, le jour de sa mort, même Chanel a mis beaucoup de temps avant de pouvoir enfin publier un communiqué et désigner son successeur.
Cette maladie, il l'a cachée, on ne devait pas lui en parler.
Non, il voulait... D'abord, il a toujours eu très peur de la mort, comme beaucoup d'entre nous, bien sûr. Mais c'était un sujet absolument impossible à aborder. Et lui-même, aussi par esthétisme, si vous voulez, s'est soigné absolument de façon très secrète à l'hôpital américain, sans jamais se confier à quiconque.
Et il a beaucoup regardé l'exemple François Mitterrand.
Oui, ça l'avait beaucoup intéressé de voir que François Mitterrand avait réussi à tenir en respect, d'une certaine façon, son cancer pendant presque 14 ans. Hein. Et il a voulu faire de même. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je n'ai pas réussi à savoir quand est-ce que la maladie a débuté chez lui. Mais en tout cas, il a réussi à la cacher, même s'il y a eu beaucoup de rumeurs, même si on a vu cette barbe qu'il a commencé à laisser pousser, même si on voyait qu'il était affaibli. Hein. Mais vous voyez, ces derniers défilés, il s'appuyait systématiquement sur son filleul, ce petit garçon de 10 ans qu'on a vu beaucoup, parce que son angoisse, c'était de tomber sur le podium devant tout le monde et de montrer sa faiblesse.
Il est incinéré le 22 février au crématorium du Mont-Valérien. Votre livre commence d'ailleurs par cette scène, une scène surréaliste avec ce défilé de limousines de star, alors qu'il ne voulait pas de cérémonie.
Oui, et il avait tellement, tellement répété qu'il ne voulait pas d'enterrement que cette cérémonie a été ratée, d'une certaine façon.
Hein. Ratée.
Oui, ratée, parce qu'elle était d'abord laide, alors qu'évidemment, c'est quelqu'un qui a cultivé la beauté et l'esthétique toute sa vie. Il n'y avait pas de fleurs, c'était dans un endroit très sinistre du crématorium du Mont-Valérien. Les discours étaient gênés, engoncés... Et d'une certaine façon, cette cérémonie ne lui ressemblait pas.
Karl Lagerfeld, c'est un personnage qu'il a construit avec ce look, avec ses lunettes opaques. Il en parlait d'ailleurs avec Nikos Aliagas en septembre 2013 sur Europe 1.
Vous vous cachez derrière vos lunettes ?
Non, j'observe, c'est pas du tout pareil.
Comme ça, vous pouvez observer le monde parce que c'est votre travail.
Vous savez, je suis un peu voyeur, vous voyez. Je tiens à ne pas être vu, vous me direz, c'est ridicule vu ma personne. Mais ça distrait en même temps. À force de regarder l'ensemble, on ne voit pas le regard.
Il se cachait derrière ses lunettes. En tout cas, Raphaël Baquet, il a caché sa vie. Une partie de sa vie, notamment l'histoire de son père, un homme d'affaires trouble.
Oui, c'est intéressant de voir à quel point... Évidemment, il arrive en France juste après la guerre, si vous voulez. Hein. Il arrive vraiment à la fin, au tout début des années 50. C'est une époque où on dit encore les Boches hein, en France. Or, lui, il est allemand et son père est un grand industriel allemand. Hein. Il dirigeait des entreprises de lait concentré qui ont fourni la Wehrmacht, l'armée allemande, pendant toute la guerre. Et évidemment, ça, cette honte qu'ont ressenti beaucoup de jeunes Allemands d'avoir vu leurs parents d'une certaine façon collaborer avec le régime nazi, et c'est le cas d'Otto Lagerfeld, même s'il n'a jamais fait partie du parti nazi, mais il a tout à fait collaboré avec le régime, ça, au lieu de voir un Lagerfeld qui demande des comptes à son père, il a préféré réinventer l'histoire de son père et même le gommer de sa biographie.
Le fait de mettre sa mère constamment en avant, c'est une façon finalement de cacher cette histoire qu'il ne voulait pas voir.
C'est une façon de dévier l'attention. Il a d'abord menti sur les origines de son père. Hein. Quand on regarde pendant 20 ans, il dit que son père est suédois, que son père est norvégien, tout sauf allemand. Mmh. Et ensuite, 20 ans plus tard, lorsqu'il a commencé à réassumer le fait d'être allemand, il a préféré construire le personnage de sa mère, ce personnage tout à fait fantasque dont on a entendu mille fois parler, ce qui lui a évité d'être questionné sur son père.
Cette enquête, elle a été compliquée à mener. Est-ce qu'elle a été plus facile à mener après la mort de Lagerfeld ? Est-ce que les gens, finalement, ont plus parlé après ?
Oui, il y a eu deux phases.
On craignait Lagerfeld ?
Oui, c'était vraiment un homme de pouvoir. Et donc, la première phase de son vivant, beaucoup de gens m'ont parlé, j'ai enquêté beaucoup en Allemagne, mais il y avait toute une partie, c'est-à-dire le Lagerfeld plus sombre, en fait, hein, plus autoritaire, plus cruel parfois, personne n'était capable d'en parler. Et vraiment, dès le lendemain de sa mort, j'ai vu tout à fait le changement d'atmosphère. Ouais. Et là, au contraire, on m'a raconté cet autre Lagerfeld qui existe aussi, qui est moins séduisant, moins touchant et qui est véritablement l'homme puissant et
dur
parfois.
Qui a blessé des gens.
Oui, bien sûr. Il a parfois brisé des carrières. Car comme son surnom l'indique, Kaiser Karl, l'empereur, si vous voulez, il avait une cour et il était très difficile, évidemment, de lui déplaire. Car à ce moment-là, quand on a un pied chez Chanel et un pied chez LVMH, vous pouvez briser la carrière de tous les gens de la mode.
Raphaël, il faut aussi évoquer son rival, le rival Yves Saint Laurent. Rivalité qui commence dès 1954 et qui va durer même jusqu'à dans l'amour.
Oui, c'est une rivalité terrible un peu. Hein. Alors, une chroniqueuse de mode disait c'est Mozart et Salieri, c'est assez juste et c'est assez cruel pour Lagerfeld puisque Lagerfeld aurait joué le rôle de Salieri. Et c'est vrai que Lagerfeld, évidemment, parce qu'il était un formidable dessinateur, parce qu'il était aussi un formidable connaisseur de l'histoire de la mode, évidemment, savait reconnaître le génie de Saint-Laurent. Et cette rivalité s'est poursuivie sans cesse jusqu'à ce que le compagnon de Lagerfeld, Jacques de Bacher, séduise Yves Saint-Laurent, le rende fou d'amour, c'est vrai, le fasse sombrer aussi dans la dépression et dans la drogue. Et Lagerfeld, tous les soirs, avait Jacques de Bacher qui lui racontait la progression de ce mal, si vous voulez, amoureux, qui déstabilisait si fort son rival.
Quand on lui demandait son avis sur le mariage pour tous, sur la paternité, voilà ce qu'il répondait sur Europe 1 2013.
Je suis trop égoïste. J'ai des enfants adoptifs ou des filleuls, mais moi, je ne peux pas avoir une vie familiale avec ce que je fais. Je dois être disponible 100% pour ce que je fais, 24 heures sur 24.
Il était égoïste.
En tout cas, c'est vrai qu'il s'est entièrement consacré à son travail. Et donc, jamais il n'a eu l'idée de fonder une famille, même s'il a eu beaucoup de disciples, beaucoup de protégés, qu'il a aidés d'ailleurs dans sa vie. Mais c'est vrai que même s'il a vécu, par exemple, son homosexualité de façon très libre, il n'a jamais été non plus un militant de la cause LGBT, par exemple. Il était contre le mariage pour tous, par exemple. Il trouvait ça ridicule. Il considérait que l'homosexualité, c'était une façon de transgresser. Et donc, il voulait conserver cette liberté, cette rébellion affichée.
Raphaël, à la fin de votre livre, vous dites « C'est un homme seul qui est mort seul ».
Oui, c'est ce qui m'a frappé, mais c'est ce qui caractérise vraiment les gens de pouvoir, si vous voulez. C'est qu'au bout d'un moment, le vide se fait autour d'eux. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il rentrait dans son immense appartement de 350 mètres carrés donnant sur le Louvre et il dînait avec son garde du corps, dans sa cuisine, tout en aluminium, si vous voulez. Donc. Et effectivement, il est mort seulement avec son garde du corps et sans que plus aucun ami, aucun amoureux ne soit autour de lui. Mais il a mener la vie qu'il voulait mener, puisqu'il voulait absolument se consacrer entièrement à son travail et à sa légende.
Le 19 février dernier, le jour où Karl Lagerfeld est mort, merci à vous Raphaël Baquet. Je rappelle votre livre, Kaiser Karl, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Raphaël.
Merci.
Europe 1.
Ainsi s'achève votre grand journal du soir à 20h, le multiplex et Lionel Rosso bien sûr. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry.
PSG Rennes ce soir.
Absolument, Rennes face au Paris Saint-Germain. On va suivre ce match en intégralité avec l'analyse en direct comme chaque dimanche sur l'antenne d'Europe 1. Puis nos grands débats autour notamment en effet du PSG. On va se demander si le Paris Saint-Germain est plus fort que la saison dernière. Il a déjà écrasé le championnat. En revanche, en Ligue des Champions, c'était un petit peu plus compliqué. Puis, inexorablement, on va parler de Neymar, le fameux feuilleton. Il n'est pas là ce soir, mais son ombre va planer au stade à Rennes. On sera avec nos envoyés spéciaux et nos experts dans quelques instants.
Merci Lionel, à tout de suite. Merci à Capucine Patouillet et Cédric Lastenay qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'infos. Merci à Kevin Ousti à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Géraldine.
Merci Thierry.
Attention, surtout si vous êtes sur la route, attention aux orages, notamment sur l'est de la France ce soir et dans le Rhône. Belle soirée à tous sur Europe 1. À très vite.